Vous écoutez
RMC.
RMC.
Vas-y, très vite.
Ouais, juste pour conclure, il y a une phrase célèbre dans le foot qui est on joue comme on s'entraîne.
Évidemment.
Non, mais c'est important, Nico, parce que bien sûr, je me la raconte un peu sur le hug avec tout ça. Mais
je vais essayer d'être honnête, ce qui est déjà pas mal. L'objectivité, je sais pas ce que c'est.
Alors,
par contre, honnêteté, j'essaie de l'être.
Non, mais j'ai peut-être dansé sur Coldplay, mais je devais pas être agent.
20h-22h, Génération After.
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans Génération After, spécial Drôle de Dame. Émission exceptionnelle ce soir, déjà parce qu'on est dimanche et pas lundi. Mais pas de Ligue 1 en ce 5 mai, en hommage aux victimes de Furiani. Le match Lille-Lyon aura lieu demain soir, ce sera évidemment en direct sur RMC. On a donc convoqué les drôles de dames 24 heures plus tôt pour lancer cette semaine européenne de folie qui nous attend. En ce dimanche, il est là, prêt à nous parler pendant 2 heures de la très bonne saison du Bayern. Salut Paulo Breitner.
Bonsoir mon cher Thibaut, bonsoir tout le monde, je confirme mes biens.
En ce dimanche où l'Italie se passionne pour le Roma Juve de ce soir ou pour le Giro qui vient de démarrer, lui fait une pause de 2 heures dans ses célébrations de la remontée d'Auxerre en Ligue 1. Salut Johan Crochet.
Exactement, salut Thibaut, bonsoir à toutes et à tous.
En ce dimanche, le plus dur a été de réussir à trouver 2 heures où il ne bossait pas déjà ailleurs, entre une émission pour la BBC et un duplex pour la télé indienne ou pakistanaise, ou les deux. Julien Laurent est avec nous, salut Julien.
Salut Thibaut, salut à tous. Je suis content de voir que Nico Jamin ne travaille pas le dimanche, lui, en revanche. C'est ça ce qu'il m'a compris.
Absolument. Et en ce dimanche, jour du Seigneur, on lui a dit amen. Amène-toi, RMC, pour bosser un petit peu. Salut Fred Hermel.
Hola, Chicos. Très bonne. Très, très bonne introduction.
Les gars, c'est parti pour vos 3 points du week-end, quelque part. On va commencer avec Polo.
Bon, évidemment, on va revenir sur la démonstration un peu surprise du Borussia Dortmund contre Augsbourg. On va s'intéresser à l'état du Bayern Munich avant la rencontre retour contre le Real Madrid. Et notamment, le thème particulier des chouchous allemands en ce moment, c'est quel coach pour l'année prochaine. Et puis, on aura une petite minute spéciale sur un partenariat qui m'intéresse beaucoup.
Johan.
On va évoquer l'AC Milan, alors pas l'AC Milan qui vient de faire un match nul 3 partout contre le Genoa, énième mauvais résultat consécutif, mais le Milan en coulisses, le choix du nouvel entraîneur qui est bien difficile avec un poids donné aux supporters un petit peu étonnant. On va évoquer un petit peu tout ça, on va parler de la lutte pour le maintien en Serie A. Beaucoup de choses, beaucoup de duels à venir entre équipes concernées directement et pas mal de potentielles très mauvaises surprises pour des clubs qui n'étaient pas attendus là. Et puis du côté de la minute, on parlera de Bologne.
Julien.
On va revenir sur le Liverpool-Tottenham de cet après-midi qui était assez spectaculaire et on a plein de choses à raconter aussi sur Klopp, sur Mo Salah et sur Ange Postecoglou. On parlera de Phil Foden qui a été élu meilleur joueur de la saison. C'est un peu bizarre parce que la saison elle n'est pas encore terminée. Et puis on aura une musique sympa sur un nouveau promu. Ils ont déjà été en Première Ligue, mais un nouveau promu pour cette saison, pour la saison prochaine de Championship à la Première Ligue.
Fredo.
Habemus Campeon, ça y est, le Real a été sacré, bon, sans s'en douter. Mais la belle nouvelle, c'est qu'on aura Gérone en Ligue des Champions la saison prochaine, qui a le même problème que Metz d'ailleurs avec son petit stade. Il va falloir trouver une solution, Brest. On en parlera.
Brest.
Qu'est-ce que j'ai dit?
T'as dit Metz.
Metz, Brest, pardon.
Metz, il se pose pas la question.
Oui, je sais, malheureusement. Mmh. Et on va parler, bien entendu, de cette équipe de Gérone, mais aussi du Barça, avec une défaite encore. Mais le Barça qui était plombé par sa défense cette saison. Et puis, on va parler d'une blanche colombe qui vient pour essayer d'apaiser les tensions à la fédération.
Voici votre programme sur RMC, Génération After, spécial Drôle de Dame jusqu'à 22h. Et on vous attend d'ailleurs au 32-16 pour votre quart d'heure, les Drôles de Dame face aux auditeurs à 21h45. Et à 22h, ce sera l'After. Salut Gilbert Bribois.
Salut les gars. Alors Thibaut, déjà, je voulais te rendre hommage, c'est sympa dans Génération After d'accueillir des plus de 50 ans. Je voudrais sur parler de Fred Hermel et Jean-Luc Roy qui est dans le studio.
Oui. Hein, oui.
Voilà.
Parce que toi, t'as pas 50 ans.
Non, j'étais sûr que t'allais dire ça. Eh ben non.
Non, il les a pas.
Eh ben non.
Eh ben, moi, à ta place, je m'inquiéterais parce que tu l'as fait, tes 50.
Ouais. T'as vu la vengeance, la basse vengeance.
Ah bah ouais. Bon, en même temps, on va être honnête, j'ai pas eu le choix. Mais bon.
Voilà. Alors, à 22h, il y aura des jeunes. Aurélie Dacherchour et Florent Gautreau.
Gautreau, il est pas loin de 50, hein, lui aussi.
Quand même qu'il les a dépassés.
Ah bah ouais, tu vois.
Il le fait pas, c'est ça.
Non, il le fait pas. Ouais. On somme toujours à Daniel Craig. Mmh. Bon, c'est vrai. De loin.
C'est comme Robert Redford.
2 heures de Ligue 1, bien sûr. Après les matchs d'hier, on va parler de la VAR, notamment. Walid veut en parler, des décisions arbitrales. On va parler de Rennes, Florent veut en parler. Et puis, vu qu'on est sur une semaine de Coupe d'Europe qui démarre là, on veut faire ce débat qu'on n'a pas eu le temps de faire depuis une éternité parce qu'il y a eu beaucoup de matchs ces derniers temps. Comment comprendre le désamour des supporters du PSG pour Kylian Mbappé?
Ah, c'est un très bon débat, ça.
Moi, je comprends pas.
Je te rejoins assez là-dessus.
Il y a vraiment des amours.
Mais c'est incroyable, tu t'imagines même pas.
On a des discussions ici parfois où.
T'as des mecs qui sont supporters du PSG, tu vois, c'est l'impression que c'est leur sang, ils ne supportent plus Mbappé, Julien, je ne comprends pas.
Ah, c'est un bon débat, c'est un très bon débat.
Bon, après, il sera aimé bientôt par d'autres. Hein. Bon, qui sont plus nombreux d'ailleurs.
Ah, peut-être.
Bah, oui, c'est.
Ben voilà, voilà quelques-uns de nos thèmes. Tout à l'heure, de 22h à minuit, on vous attend au 32-16.
A tout à l'heure, Gilbert, avec Flo Gautreau et Walid Acherchour. Il est 20h05. Sachez qu'on parle du Paris Saint-Germain. C'est dans deux jours, face au Borussia Dortmund, en demi-finale de Ligue des Champions. Et l'expérience RMC, vous pouvez la vivre et la gagner pour justement profiter de cet événement. Avant match, visite des studios RMC, rencontre des équipes, direction le Parc des Princes pour assister au match avec la personne de votre choix. Et enfin, retour à RMC pour voir les coulisses de l'after, pour le débrief du match et même participer, pourquoi pas, à la libre antenne avec vous tous. Dès que vous entendez ça, vous aurez 5 minutes pour envoyer PSG par SMS au 732-16 pour vous inscrire. L'alerte peut tomber n'importe quand. Soyez bien attentifs pendant l'émission, pendant les pubs même. Vos places pour PSG Dortmund se gagnent uniquement sur RMC. Je vous rappelle qu'on est également l'After a démarré en direct sur YouTube, la chaîne de l'After, @after-foot. Bienvenue à tous ceux qui sont là. N'hésitez pas à venir nous voir et commenter votre soirée. Polo, on y est presque déjà, à deux jours de cette demi-finale, retour entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. On avait fait pas mal de... On s'était posé la question, avant la confrontation, on savait que le Paris Saint-Germain ne jouait pas ce week-end, Dortmund avait ce match en plus, pile au milieu contre Augsbourg, et finalement, ce match a servi à Dortmund de faire le plein de confiance.
Oui, enfin, il y a beaucoup d'informations. Déjà, je ne sais pas si c'est un match référence pour le Borussia Dortmund, puisque les 10 joueurs de champ étaient changés par rapport à ceux qui jouaient contre le PSG. Le seul titulaire contre le PSG lors du match aller, c'était le gardien Gregor Kobel. Donc, je ne sais pas. Moi, j'ai été extrêmement déçu par la prestation bavaroise d'Augsbourg, qui se bat quand même pour la 7e place et pour une qualification pour l'Europa Conference League, puisqu'on se rappelle que la finale de Coupe d'Allemagne, c'est entre Leverkusen et Kaiserslautern. Kaiserslautern est en seconde division, donc on peut dire que Leverkusen est archi favori pour cette finale de Coupe d'Allemagne. Donc la prestation, si tu veux, a été dramatique lorsque tu es mené 4 buts à 1 au bout de 35 minutes, alors que tu joues quasiment le match le plus important de la saison. Tu peux pas te satisfaire de ce qui s'est passé. Donc, et la deuxième chose, c'est, je viens de le dire, c'est qu'il y a quand même 10 changements par rapport au match contre le PSG. Donc, ce n'est pas si important, cette rencontre. Et autant on avait le droit de relativiser la défaite à Leipzig qui plantait des 3 buts à tout le monde il y a une semaine, autant on peut ne pas faire des gorges chaudes du côté de Dortmund après cette rencontre, parce que ce ne sera pas du tout la même composition. Ce qui me semble important, par contre, c'est que Malen était titulaire. Et Malen, il est théoriquement dans le 11 de départ. Donc, ça veut dire, d'autant plus qu'Adeyemi ayant reçu une béquille, il est possible qu'on assiste à un certain changement. Et Malen a marqué en plus, donc il a sûrement pas encore 90 minutes dans les pattes, mais il est possible qu'il soit titulaire. En tout cas, il est une possibilité pour Edin Terzic pour jouer contre le PSG. Donc voilà, la confiance, je veux bien. La confiance pour ceux qui ne jouent pas, surtout. Le reste, si tu veux, j'ai été très déçu par la rencontre, encore une fois, du côté d'Augsbourg. Donc je n'en tire pas de conséquences plus que ça, d'autant plus que le Borussia Dortmund nous a habitués tout au long de la saison, y compris l'année dernière, à avoir des excellentes périodes de 3-4 matchs où ils gagnaient toutes les rencontres, puis de rechuter systématiquement. Mais rappelez-vous, ils se prennent une raclée à Leipzig, ils gagnent contre le PSG, là ils enchaînent, c'est pas pour ça qu'ils vont se qualifier contre le PSG ou qu'ils vont venir en favori au Parc.
Justement, même la logique, ce serait l'inverse, du coup, vu ce que tu nous dis.
Bah oui, mais moi c'est ça le problème, ouais. De toute la saison, le Borussia Dortmund n'a pas fait d'énormes performances. Ils ont fait des résultats, mais pas d'énormes performances. Et surtout, ils sont d'une inconstance notoire. Moi, je constate, si je reviens sur le match aller, qu'il y a toujours deux statistiques qui m'intéressent vraiment. C'est le nombre de kilomètres parcourus. Et là, il faut sérieusement que l'effectif parisien se pose des questions, parce que lorsqu'on court 10 kilomètres de moins que son adversaire, c'est qu'il y a peut-être un petit problème quelque part. Et l'autre statistique qui m'intéresse, c'est les passes réussies. Et parce que ça montre souvent la qualité technique des équipes. Et là, le PSG, encore une fois, avec plus de 90% de passes réussies, est largement supérieur au standard du Borussia Dortmund. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la qualité individuelle, et vous pouvez voir ça sur l'ensemble de la saison, est nettement moins importante du côté du Borussia Dortmund, qui tourne en gros à 85%, qui parfois est descendu en dessous de 80%, je reviens pas sur ces fabuleuses purges contre le PSV Eindhoven, et qui, alors que le PSG est souvent à 90, voire plus. Donc la qualité technique des Parisiens est supérieure, ce qui me faisait dire qu'ils étaient le favori pour la double confrontation. Ensuite, lors du match aller, il y avait une chose qui moi me semblait importante, c'est que je voulais pas que le PSG se noie à Dortmund. Et c'est ce qui s'est passé. Un but d'écart, c'est pas si grave que ça. Moi, sur les 180 minutes, j'enlève des potentielles prolongations, donc au match aller plus match retour, j'ai du mal à croire que le PSG ne va pas scorer au minimum une fois. Donc ça veut dire que la qualification du Borussia Dortmund passera forcément par un but au parc. Est-ce qu'ils sont capables de le faire? Ça, pour moi, c'est une grande interrogation.
Et c'est une question que je vous pose à toutes les drôles de dames. Est-ce que vous pensez que là, Dortmund, qui jouait ce week-end, on en a parlé, valait mieux se reposer, s'entraîner, comme l'a fait le Paris Saint-Germain? Ou finalement, tu dis, il y avait un match qui aurait pu être, enfin, piège, tu peux toujours te blesser, te fatiguer pour le Borussia Dortmund, et finalement, t'as fait le plein de confiance, que t'as donné du temps de jeu à tout le monde, t'as cartonné, bon, il y a la petite béquille d'Adeyemi, mais t'as même pu faire rentrer des joueurs qui manquaient un peu de rythme, est-ce que finalement c'était pas mal d'avoir fait ce match?
Je sais pas. En fait, c'est pour le Borussia. Nous, d'un point de vue extérieur, c'est plus difficile. Je pense que c'est surtout aux entraîneurs, parce que nous, on a eu un cas en Italie, par exemple, avec une semaine avant le match contre Leverkusen, la Roma a dû jouer 20 minutes qui restaient du match à Udine. Donc en fait, ils ont eu des matchs joués 3 jours juste avant le match contre Leverkusen, et en fait, ils sont arrivés contre Leverkusen, qui a largement dominé. Il y a même pas de débat. Mais totalement cramé en fait. Donc je pense malgré tout que avoir un tour de repos, ce qui revient presque à ce qu'a fait Dortmund, puisque Dortmund a tellement changé que les titulaires, c'est quasiment une séance de décrassage pour ceux qui sont rentrés, et puis les autres, ils ont pas joué, donc ça revient quasiment au même.
Bah c'est en fait c'est bien d'avoir un match quand tu peux tourner, sinon je vois le Real ce week-end, ils ont encore fait tourner pour gagner contre Cadix, mais tourner, c'est 90% de joueurs qui ne vont pas débuter contre le Bayern. La semaine dernière à Saint-Sébastien, c'était pareil. Donc en fait, c'est bien parce que t'as une certaine dynamique, et puis tu... Non, je trouve ça bien. Après, quand t'as un match très important à disputer pour le titre, et que tu peux pas faire tourner, c'est un problème.
Ce qui n'était pas le cas, puisque la cinquième place de Dortmund n'était pas menacée, quoi qu'il arrive, à les qualificatifs.
C'est la situation du club à un moment donné qui dicte ce qu'il y a de bien ou pas. Quoi. Ouais.
Et d'ailleurs, pour cette rencontre, Polo, il y a eu cette victoire, il y a eu la fête autour de Marco Reus, qui a annoncé son départ, qui a fait un bon match et qui a été célébré par son public.
Marco Reus, évidemment. Alors, tu te demandes parfois pourquoi il n'est pas encore titulaire cette saison, mais bon, vu les relations qu'il a avec son coach, c'est un petit peu délicat. Donc un but de passe décisive, 155 buts en Bundesliga, 117 passes. C'était l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération en Europe et dans le monde. Il a malheureusement été souvent blessé, ce qui l'a empêché notamment d'avoir un petit palmarès en équipe nationale. Il partira à la fin de la saison, il ne raccrochera pas les crampons. Donc ça, il a été évidemment fêté par le Westfalenstadion, et ça, c'est une excellente chose. Mais voilà un joueur qui, tu vois, on parle toujours des ballons d'or, des ceci, des cela, mais quand t'as un joueur, hein, on le surnomme Woody Woodpecker, faut pas l'oublier, Woody, et il est très fin, très dans le jeu évidemment, mais aussi physiquement, ça manque ce genre de joueur, parce que tu as l'impression qu'il rentre pas dans tous les canons du football moderne. Je sais pas trop où on le mettrait aujourd'hui, comment est-ce qu'il pourrait évoluer en première ligue quand je vois les Golgoths qu'il y a là-bas. Donc toutes ces choses-là font que ça va encore être un joueur, j'espère qu'il va rester en Bundesliga, parce qu'on va voir ça, mais surtout, bon, c'est l'un des joueurs les plus importants du football allemand des 15 dernières années.
Paris Saint-Germain-Dortmund dans 2 jours, hein, déjà, ce sera au cœur de cette semaine exceptionnelle qu'on va vivre tous ensemble sur RMC, le match mardi 21h, l'after dans la foulée jusqu'à minuit et demi, et la libre antenne avec vous tous au 32-16 jusqu'à 1h30 du matin. D'ici là, en ce dimanche soir, Génération After spécial drôle de dames, pas de Ligue 1, mais les drôles de dames sont là, et dans un instant, la Première Ligue au programme, l'affiche opposée aujourd'hui Liverpool à Tottenham, et c'est Liverpool qui s'est imposé au terme d'un match spectaculaire. On en parle dans un instant, plus la minute de Yoann Crochet, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Thibaut Giangrande.
avec les drôles de dames, émission exceptionnelle en ce dimanche soir. Sans Ligue 1, Fred Hermel, Paulo Breitner, Johan Crochet et Julien Laurent sont là avec vous jusqu'à 22h. N'oubliez pas 32-16 pour nous appeler, venir poser vos questions aux drôles de dames à 21h45. On est toujours en direct sur YouTube, sur le Direct Studio également, où il y a Lisa qui envoie un message qui dit: est-ce que Johan Crochet aurait des idées de stade avec des bonnes ambiances en Italie? Je sors de San Siro, peu d'ambiance, à part sur les buts, alors qu'on m'avait promis un truc de fou.
C'est parce qu'il y a la contestation. Il y avait contestation des supporters de Milan aujourd'hui, avec grève des encouragements pendant une bonne partie du match, d'où l'ambiance pourrie. C'était vraiment pas le bon moment pour la San Siro, parce que pour le coup, San Siro, que ce soit côté Inter ou Milan, c'est la plus grosse ambiance, notamment aussi parce que le stade fait que le son est pas mal retenu. Et donc, cet effet caisse de résonance qui est présent. Mais sinon, vous pouvez aller voir un match de la Roma au Stadio Olimpico, c'est pas mal. Le Napoli, il fallait y aller la saison dernière, pas cette saison. On n'a pas... Après, en Serie B, il y a des trucs sympas. Aller à Palerme, par exemple. Palerme, c'est vraiment une belle expérience.
Il faudra retourner en Italie, Lisa, apparemment. Vous dire qu'aujourd'hui, donc, il y a eu 3-3 pour ce match entre l'AC Milan et le Genoa. À suivre dans Génération After Drôle de Dame, l'Espagne, d'ici un quart d'heure. Et Gérone qui a renversé le Barça et qui a assuré sa qualif en Ligue des Champions. Mais d'abord, la Première Ligue et cette journée, Julien, qui a été marquée par l'affiche entre Liverpool et Tottenham. Le match d'après, l'embrouille, Salah, Klopp. Et c'est Liverpool qui s'est facilement imposé 4-2.
Ouais, un match qu'on attendait beaucoup, forcément. Après, tu l'as dit, l'embrouille entre Klopp et Salah qui était titulaire, qui a été très bon d'ailleurs, qui a marqué, qui a fait une passe décisive, qui est pas vraiment une passe décisive, hein. On en parle souvent avec Johan, mais c'est pas décisive, qui sert à rien, c'est juste une passe latérale. Et après, Harvey Elliott met un but fantastique, pied gauche, pleine lucarne opposée, mais on va donner la passe décisive à Salah quand même, parce que c'est la dernière passe avant l'exploit d'Elliott, mais quand même, elle compte dans les stats et tout ça. Donc un Salah, en bien meilleure forme, un Liverpool en bien meilleure forme que ce qu'on avait vu à West Ham notamment, surtout à Everton lors de la défaite qui, finalement, les condamne dans cette course au titre. Apaisé, Jurgen Klopp aussi sur le banc, dans sa relation avec Salah, mais aussi dans ce qu'on avait pu voir un petit peu de frustration de sa part sur les dernières semaines. En revanche, pour Tottenham, c'est de pire en pire. Alors pendant 70 minutes, ils ont pris une leçon de football. Ils ont marqué 2 buts en fin de match, Richarlison et Son, 72e, 77e. Mais avant ça, c'était une vraie leçon de football. Leur 4e défaite de suite, 1 victoire sur les 6 derniers matchs de championnat, 4 défaites de suite. Alors c'est des grosses équipes, contre à Newcastle d'abord, contre Arsenal à domicile, à Chelsea et donc maintenant à Liverpool. Ils ont encaissé 4 buts contre Newcastle, 3 contre Arsenal, 2 à Chelsea et encore 4 ce soir. Notre ami Ange Postecoglou, on a beaucoup parlé, notamment en bien en début de saison, où ils étaient en super forme, ça gagnait, c'était en tête du championnat, ça gagnait, ça jouait très bien. À l'époque, ils nous avaient dit, notamment, je comprends pas les entraîneurs qui disent, moi j'aimerais bien jouer de telle façon, mais j'ai pas le joueur pour. Et il avait dit, voilà, t'as qu'à le faire, fais-le quand même, mate. Tu sais, il dit souvent le mot mate en anglais, parce qu'il est cool, Ange Postecoglou. Sauf qu'il a un peu changé son discours quand même, puisque avant-hier, il nous a dit qu'il y avait pas mal de changements à faire dans son effectif, parce qu'il avait pas les joueurs pour jouer comme il voulait.
Ah bah.
Alors il y a quelques mois, il nous dit que quand tu veux jouer d'une certaine façon, même si t'as pas les joueurs pour, fais-le quand même. Oui. Aujourd'hui, quand ça va mal après 4 défaites de suite, il dit, j'ai besoin de changer les joueurs de mon effectif, j'en ai besoin d'autres parce que ceux-là ils conviennent pas à ce que je veux faire.
Le contexte est plus fort que le concept, comme disait le poète.
Tout à fait. Mais après, je respecte, il a raison dans un sens, parce qu'il a hérité d'un effectif et pas son effectif déjà, qui était un effectif qui avait été construit par Mourinho, Nuno et Conte, qui ont des styles de jeu complètement différents du sien. Donc, il a tout à fait raison sur le fond. Arteta, Klopp, Guardiola, lui avait déjà un très bon effectif quand il est arrivé, mais pour Klopp et Arteta notamment, ils ont dû changer quasiment 80% de leur effectif pour arriver là où ils voulaient avec le jeu qu'ils voulaient. Donc lui aussi doit faire ça, bien sûr.
Puis il a perdu Kane aussi, Julien, quand même.
Oui, il a perdu Kane aussi. Mais t'as un peu l'impression, Yo, qu'il s'en sert un petit peu comme une excuse aujourd'hui après toutes ces défaites-là, en fait. Voilà, c'est ça qui me gêne un tout petit peu plus dans sa rhétorique.
Après, il y a une logique, hein, par rapport à tous les autres concurrents. Enfin, tu vois, tu prends effectif à effectif, hormis Newcastle, je pense, où ça peut se discuter, mais les autres, effectif à effectif, c'est pas déconnant, entre guillemets, que Tottenham perde contre ces clubs-là. Le truc, c'est juste la série et comment tu réussis à inverser la série ou en tout cas te remettre à gagner, parce que là la Ligue des Champions compliqué, hein.
C'est fini, là. Ouais, 7 points, il y a 7 points d'écart et
même s'ils ont un match de retard.
Ouais, ils ont un match de retard, donc c'est pas fini, mais bon, c'est pas ça va être compliqué quand même par rapport à Aston Villa, et ça se rapproche un petit peu derrière. Alors il reste effectivement ce match en retard à jouer contre Manchester City d'ailleurs à domicile, oui, cette fois, mais après oui, t'as raison, même si tu peux regarder l'effectif d'Aston Villa et te dire que finalement les deux, peut-être pas grand chose entre les deux, mais il a raison sur le fond. Il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup d'investissement. Il va falloir laisser partir des joueurs aussi. Je sais pas qui viendra chercher Richarlison par exemple, qui même s'il a marqué aujourd'hui et fait passe d'aise, qui est plus trop en odeur de sainteté. Je sais pas moi qui va aller chercher un Højbjerg non plus. Alors ils trouveront toujours des clubs, mais à quel prix, et surtout qu'est-ce que tu vas pouvoir réinvestir derrière? C'est ça qui va être intéressant à suivre.
Oui, il annonçait beaucoup de changements à venir cet été. On est sûr qu'il en fera pas partie de ce changement, Postecoglou?
Non, parce qu'il a fait beaucoup de bonnes choses et puis finit cinquième.
Oui, mais il est en train de finir de manière catastrophique, quoi. Faudrait voir.
Ça c'est sûr.
C'est ça le problème.
Ça c'est sûr, ça se complique. Mais après, ça faisait, je pense que il est assez expérimenté, il a assez de bouteilles dans le milieu pour savoir que tout allait pas être non plus super rose et qu'au final, les 10 premiers matchs championnat où ils sont excellents, ça n'allait pas durer non plus. Mais c'est vrai qu'il a fait des erreurs, lui, sur le terrain, tactiquement, dans la gestion de son effectif, dans la gestion des temps forts et des temps faibles de son équipe pendant la saison. Il a peut-être pas aussi, effectivement, l'effectif qu'il lui faut pour jouer exactement comme il le souhaiterait. Mais après, ça reste quand même assez positif et la dynamique à porter, notamment pour la saison prochaine.
Julien, est-ce que en Italie, sur les sites économiques un peu liés au sport, on parlait beaucoup d'une éventuelle vente de Tottenham? Est-ce qu'il y a quelque chose qui avance? Parce qu'on parlait d'investissement là, à faire, de joueurs à laisser partir et réinvestir, mais s'il y a une incertitude au niveau de l'actionnariat, est-ce que tu peux investir autant?
Non, c'est une bonne question. Alors, le club avait officiellement communiqué il y a un mois de ça, ou peut-être un tout petit peu plus, 6 semaines de ça, que des nouveaux investisseurs allaient venir au club, sans qu'on sache vraiment à quelle hauteur.
Ouais.
Si c'était 10%, 15%, 20%. On sait donc que Joe Louis, qui est le milliardaire britannique qui habite à la Barbade tranquillement sur son île privée, milliardaire, qui a 83 ans je crois maintenant, qui en a rien à faire du foot, mais qui reste le propriétaire du club. On sait que c'est Daniel Levy qui a lui 10% je crois ou 15% des parts, qui gère le club au jour le jour, qui le fait plutôt bien d'ailleurs. Mais après effectivement, ces nouveaux investisseurs, on ne sait pas qui ils sont déjà, d'où ils viennent et à quelle hauteur ils vont arriver. Mais oui, je pense que par rapport à ce que par rapport aux finances, au pouvoir financier on va dire de cette équipe là et du club, je pense pas qu'il pourrait investir de manière assez agressive pour faire plaisir à Postecoglou sans l'arrivée d'un investisseur étranger qui viendrait mettre de l'argent et pouvoir permettre à Postecoglou de dépenser comme il voudrait cet été.
Tu fais des petites lectures sites économiques
En Italie, on a beaucoup de sites comme ça. Il y en a notamment un qui est très très bon qui s'appelle Calcio e Finanza, qui traite beaucoup de l'actualité économique dans le milieu du foot. Pas que d'ailleurs, même aussi au niveau règlement, UEFA, FIFA, il y a beaucoup de choses très intéressantes.
Conséquence de cette défaite, Julien, aussi on y voit vraiment plus clair pour la Ligue des Champions, hein, tu commençais à le dire, mais Aston Villa qui a été battu d'ailleurs en fin de match par Brighton aujourd'hui 1-0, il sera la saison prochaine, quoi. Il y a très peu de doutes maintenant.
Il y a 7 points d'écart, il reste 3 matchs pour Tottenham, donc potentiellement 9 points, donc c'est pas encore tout à fait joué. Ils ont une différence de but plus 9 Aston Villa supérieure à celle de Tottenham, donc il faudrait quand même effectivement un effondrement total de Villa et de Unai Emery et que Tottenham remporte leurs 3 matchs, notamment celui contre Manchester City à domicile, pour pouvoir inverser la tendance, remonter au classement et dépasser et finir 4e, puisque maintenant on sait que la 5e place sera pas qualificative la saison prochaine, puisqu'ils ont pas bien travaillé les Anglais. Donc oui, effectivement, je pense que Villa et Emery, ça sent vraiment très bon et ils le méritent aussi parce qu'ils ont fait vraiment une saison assez incroyable, même si là ça s'essouffle un petit peu. Ils ont perdu contre l'Olympiakos jeudi soir en demi-finale de la Conference League, c'était très décevant. Là ils perdent encore, mais ils devraient juste y arriver, juste franchir la ligne quand il faut, et pour la Coupe d'Europe on verra jeudi soir le match retour au Pirée.
20h25, RMC Génération After spécial Drôle de Dame en ce dimanche soir sans Ligue 1 et avec la minute de Johan. Fredo qui danse, j'aime bien moi aussi, je vais pas vous mentir, j'aime bien.
C'est difficile de passer à côté en Italie en ce moment.
Ah, c'est le tube du moment là?
L'un des tubes du moment, Noemi, non bisogno di te, qui veut dire je n'ai pas besoin de toi. C'est un des tubes. Noemi est une chanteuse très populaire en Italie. Et pourquoi je n'ai pas besoin de toi? C'est Bologne, sa relation avec les buts. On a l'impression que Bologne pourrait aller en C1 sans marquer trop de buts. Ils n'ont
pas besoin de marquer.
Pas besoin de marquer de buts, puisque sur les 5 derniers matchs, il y a 3-0-0. Que ça s'essouffle un petit peu aussi quand même du côté de Bologne, un peu plus de difficultés. Ces équipes On évoque toujours dans les équipes surprises comment ils vont se comporter dans le sprint final, quand il y aura un peu plus de pression, d'attente, etc. Et c'est vrai que Bologne est un petit peu plus en difficulté à la fois dans le jeu, dans la création des occasions aussi, dans la finition également. Donc malgré tout, ça ne les empêche pas de prendre suffisamment de points pour le moment, parce que les autres clubs type Roma, Atalanta ont aussi quelques faux pas ou partent d'un peu plus loin. La Lazio encore qui est tout à fait dans la course. Donc Bologne n'aura peut-être pas besoin de marquer beaucoup de buts lors des dernières journées pour se qualifier en Ligue des Champions.
Tim, laisse traîner la musique en régie pour annoncer dans un instant justement l'équipe surprise en Espagne. Gérone qui a battu Barcelone, qui a renversé le Barça et qui a assuré sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Et ça, c'est l'alerte. Ligue des Champions, justement. C'est le moment. Inscrivez-vous pour vivre l'expérience RMC au Parc des Princes et gagnez vos places pour PSG Dortmund. À partir de maintenant, vous avez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant PSG par SMS au 732-16. PSG au 732-16. Petite pause et on est de retour avec nos drôles de dames. L'Espagne au programme. À tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h. Génération After.
Thibaut Giangrande.
Il est bientôt 20h30 et les drôles de dames sont là en ce dimanche soir. Johan Crochet, Paulo Breitner, Julien Laurence et Fred Hermel pour lancer dès ce soir cette grosse semaine européenne qui nous attend avec les demi-finales retour de Coupe d'Europe. D'ailleurs, dans quelques instants, les nouvelles de l'Atalanta avec Johan, adversaire de l'OM jeudi, toujours en direct sur YouTube, la chaîne de l'After, où on me demande, Fudo qui dit, Thibaut, c'est Gilles Verdez à côté de toi? Alors non, c'est Jean-Luc Roy, parce qu'à 22h sur RMC, vous avez le Grand Prix de Miami, Grand Prix de F1 de Miami à suivre tout à l'heure.
Le mythique Jean-Luc Croix.
Exactement.
Ouais, il raconte toujours des belles histoires.
Il est en train de préparer son Grand Prix, Jean-Luc. Ouais. Donc on sera là tout à l'heure. Restez à l'écoute d'RMC, bien évidemment. Il est beaucoup plus costaud, Jean-Luc, que Gilles Verdez. C'est pas le même gabarit, quoi.
Il y a un pilote de F1 qui adore le Real. Hein. Alonso.
Oui, enfin.
Alonso. Ouais.
À suivre les nouvelles de l'Atalanta, mais d'abord l'Espagne, justement, Fredo, on parlera du Real tout à l'heure, hein, champion ce week-end, mais d'ailleurs champion grâce à la victoire de Gérone, enfin à la défaite du Barça face à Gérone. Gérone, c'est finalement l'événement quasiment autant que le titre du Real ce week-end, mais qualifié en Ligue des Champions.
Ah, c'est un plus gros événement, c'est-à-dire que l'événement de l'année, c'est la qualification de Gérone pour la prochaine Ligue des Champions, quoi, au-delà du titre du Real. Vraiment, enfin, alors après, si le Real gagne la Ligue des Champions, on dira l'événement de l'année en Espagne, ça sera le Real qui gagne la Ligue des Champions. Mais là, franchement, personne pouvait imaginer ça, quoi. C'est-à-dire que Gérone, deuxième du championnat, qualifié pour la Ligue des Champions, je pense que c'est aussi important que quand Leicester a gagné la première ligue, en fait. Ils n'ont pas gagné, mais là, c'est, non, mais faut voir ce que c'est. Vous savez que dans l'histoire.
Ça aurait été aussi important s'ils avaient gagné, quand même.
Ouais, bien sûr. Non, mais là, franchement, c'est leur quatrième saison en première division, quand même, de leur histoire. Et jamais une équipe ayant participé si peu à l'élite ne s'était qualifiée comme ça aussi rapidement pour la Ligue des Champions. Villarreal, c'était 6 saisons. Malaga, 11 saisons. Et Mallorca, 13 saisons. Voilà, 4 saisons, ils sont déjà en Ligue des Champions. Sincèrement, cette année de Diga n'a pas été magnifique. Et c'est grâce à Gérone qui a eu. Ça a été la bouffée d'air frais, le coup de soleil, tout ce que vous voulez de positif dans ce championnat.
Et hier soir, positif, un coup de soleil?
Ouais, enfin, je veux dire, l'éclairage du soleil. Je veux dire, c'était le grand rayon de soleil. Alors voilà, le grand rayon de soleil de ce championnat. Et en fait, hier soir, en voyant le match contre le Barça, où Gérone a été mené par deux fois, notamment après un magnifique but de Christensen. Alors ça, c'est voilà, maintenant qu'il joue milieu de terrain, il frappe au but et son but est absolument sublime. Mais il y a, je me disais, au-delà de toutes les tactiques, de tout ça, il y a un truc qui s'appelle l'enthousiasme, en fait. Et l'enthousiasme, ça change tout dans un match. Ça change tout dans un match.
Ça donne des ailes, tu vois.
C'est-à-dire, ils sont menés à deux reprises contre le Barça. Le Barça qui est pas trop mal dans le jeu, en plus, quoi. Mmh. Les mecs, l'entraîneur Michel fait rentrer Portou qui est un vieux de la veille, il est passé par plein de championnats, qui est un remplaçant à Gérone. Le mec, il met un but sublime, on met un deuxième, et il donne une passe décisive, et il gagne 4-2. C'est-à-dire, cette équipe de Gérone a mis 8 buts au Barça en deux matchs.
4-2 et 4-2, d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a deux fois le même.
Donc c'est exceptionnel. Et c'est vrai qu'il y a le.
Ils sont passés devant, d'ailleurs, en plus, au classement.
Là aussi, c'est-à-dire que c'est un gros problème pour le Barça, qui déjà ne s'est pas qualifié pour le Mondial des clubs.
donc c'est de l'argent en moins, et qui là risque de ne pas se qualifier pour la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite, parce que ce sont les deux finalistes de la Coupe du Roi et les deux premiers de la Liga. Alors tout le monde y perd dans l'histoire, parce que la fédération perd moins d'argent, parce que quand il y a pas le Real ou il y a pas le Barça, c'est moins d'argent. Le Arabie Saoudite paye moins d'argent.
Mmh. Et puis bien sûr, la finale de la Coupe du Roi, c'était Bilbao, Mallorca, Gironde, voilà, Real.
Imagine,
le quatuor fait pas rêver.
C'est comme
fait pas rêver.
Voilà, c'est bien, mais oui. Voilà, c'est. D'ailleurs, ça coûtera moins cher. Les Saoudiens vont payer moins d'argent à la Fédé et Barcelone risque de perdre encore 5 millions. Et Dieu sait s'ils n'ont pas de quoi perdre d'argent en ce moment. Non, pour revenir sur cet enthousiasme qui est magnifique, voire des. Voilà, ils sont menés à deux reprises contre le Barça. Et ben non, ils y vont quoi. Ils y vont. C'est offensif. C'est allègre. C'est Alex, c'est un mot français, mais qu'on utilise beaucoup en Espagne. C'est un mot latin, mais c'est l'allégria, la joie en italien, c'est pareil. L'allégresse en espagnol. Et c'est vrai que je me demandais, est-ce qu'ils pourront faire la même chose l'année prochaine? Sûrement pas. Ils ont vécu sur un petit nuage comme ça. Ça va être dur l'année prochaine, mais c'est pas grave. Ce qu'ils ont vécu là, on leur en reverra jamais.
Il y a des joueurs qui repartiront à 3, qui vont y rester, bien évidemment. Enfin,
ça va... par exemple, on sait déjà qu'Eric Garcia va retourner au Barça, qui a été essentiel dans cette réussite de Gérone, le défenseur barcelonais. Il va retourner au Barça. Et puis il se pose la question de où Gérone va jouer la prochaine Ligue des Champions.
Ils ont le même problème que Francis Ndombé chez nous.
Voilà. Bah, en fait, Gérone cette année joue avec 15 000 places, mais sur les 15 000, tu as 9, le stade c'est 9 000, le stade en dur c'est 9 000, mais il y avait des gradins supplémentaires qui permettaient d'arriver à 15 000 spectateurs, sauf que l'UEFA refuse ce genre d'installation. Donc la question, il y a plusieurs plans sur la table. Le premier, ce qu'aimerait tout le monde, c'est de faire des travaux. Ouais. C'est 20 millions d'euros, c'est 3 mois de travaux. Donc savoir si le club veut investir, si la ville veut investir. Bon, il y a toute une réflexion à ce niveau-là. Ensuite, vous avez la possibilité d'aller à Montjuïc. Franchement, c'est pas idéal, parce que le Barça joue la Ligue des Champions l'année prochaine aussi, donc ça fait des calculs, etc. Puis franchement, le stade, les copains qui des RMC, notamment Manu Petit, ont eu très froid la semaine dernière contre le PSG. Il fait froid, c'est un stade pas très agréable. Ouais,
il fait froid, là, c'était la période.
Ben bah non, mais naturellement, il fait froid, parce que...
Oui.
La Ligue des Champions, ça joue en octobre, novembre, décembre.
Oui.
Il y a plein de vent et tout ça. Non. C'est Cornellà del Prat, le stade de l'Espagnol. Là, c'est un beau petit stade, 40 000 places. Franchement, adapté
à une équipe
comme Gérone. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si jamais tu... Automatiquement, c'est une aventure. Les joueurs vont jouer avec des champions, mais c'est les supporters, quoi. Donc, les supporters, s'il n'y a pas de place, si t'as que 9000 places au stade, il y a plein de gens qui vont être en dehors de l'aventure, donc on comprend. Alors le maire de Gérone dit mais non, il faut absolument qu'on reste là parce que c'est une publicité pour la ville, on va faire venir des gens, etc. Après, il y a plein de trucs, il faut organiser une zone VIP, un parking spécial, il faut une plus grande salle de presse parce que
c'est tout ce qu'on a pour les mêmes problématiques pour le.
Bah voilà, c'est tout un système quoi. Franchement, moi je trouve que Cornellà ce serait super.
Y a pas que ça. En fait, moi j'ai l'exemple avec Union Berlin. Qui a joué les trois compétitions lors des trois dernières saisons. Et ce qui était extraordinaire, c'est que l'UEFA a refusé qu'Union joue dans son stade en Europa Conference League, l'a autorisé en Europa League et ne l'a pas autorisé en Ligue des Champions. Donc va comprendre, Charles.
Ouais, bah ça, oui.
Donc il y a des moments, et en plus j'ai discuté avec eux, j'arrivais pas à comprendre. Et la question de savoir si c'est intéressant de délocaliser ou pas est beaucoup plus complexe qu'on veut dire, parce que ça dépend aussi du nombre de personnes. En gros, si tu favorises l'argent en ayant 30 000 spectateurs plutôt que 9 000, etc. Je suis pas persuadé que les supporters soient heureux de voir délocaliser la compétition. En tout cas, à Berlin, en tout cas pour l'ancien club de l'ex-RDA, c'était pas forcément une bonne solution, même si ce fut un succès populaire très important parce que il y avait les 75 000 spectateurs.
Ouais, mais là, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais après, c'est une centaine de kilomètres. Hein. Franchement, c'est organisable avec des bus, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
À Berlin,
je sais. Oui, bien sûr, il y a un attachement au club, au stade. Mais là, entre le fait de pas voir qu'il y ait une minorité de gens qui voient la Ligue des Champions dans leur stade et le fait de pouvoir plus de personnes, Je sais pas ce qui va se passer, mais a priori, je pense que ça, on se dirige là-dessus, hein, vers une délocalisation. Mais ils vont devoir prendre la. Il y a eu une déclaration de Pep Guardiola, qui est le patron de le frère de Guardiola, qui est le patron de Gérone. Là, ils sont en pleine réflexion par rapport à ça, quoi. Mais okay. Moi, sincèrement, j'aimerais bien les voir au stade de l'Espagnol à Cornellà, parce que c'est un beau petit stade qu'ils ont refait il y a quelques années. Et franchement, ça peut être.
Il y aura moins froid.
Ça peut être
moins
froid. Bah, non mais tu plaisantes par rapport à ça, mais toujours. Tu sais qu'il y a eu des problèmes d'affluence pour le Barça cette saison, parce que des matchs. C'est le match de lundi dernier. Il n'y avait pas grand monde dans le stade. Le soir, il faisait pas beau. C'est vraiment
la chaussure. Un peu, c'est Barcelone.
Mais non, mais il fait froid. Il y a les Montjuïc. Oh, bah non, Michel. C'est comme ça. Non, mais tu sais. C'est
le Barça, justement. Parlons-en. Il y a une semaine, 10 jours, là, juste avant le match retour, Xavi, il fallait qu'il reste finalement. Depuis éliminé, battu hier. On en est où? On ne comprend plus rien que ce Barça.
Le pire, c'est qu'ils n'ont pas mal joué hier, en fait. Mais ils ont été trahis par la défense, quoi. Enfin, par deux fois, ils mènent. Franchement, et là il y a une réaction, on voit du président Laporta qui dit no puede ser, c'est-à-dire c'est pas possible. Grosse nervosité après la rencontre, parce que en plus ça veut dire que tu offres le titre au Real, quoi. C'est-à-dire que c'est ça aussi en plus, quoi. Voilà, il fallait que le Barça gagne à Gérone pour ne pas offrir le titre comme ça au Real. Mais là aussi le problème qu'il y a aussi, c'est que on a l'impression que Xavi qui va continuer, même si aujourd'hui tu as certains chroniqueurs comme Josep Maria Casanova, des gens importants qui disent Xavi, t'es sûr que tu vas rester, parce que le manque de réalisme de Xavi, qui quand même explique, il a perdu les deux matchs contre le Real, il a perdu les deux matchs contre Gérone, il en a pris 8 contre Gérone, et il dit le problème, c'est que on a été supérieur à ces deux équipes. On a été supérieurs. Alors c'est vrai que dans le jeu, ils n'ont pas été mal, mais on a été supérieurs à ces équipes. Et ce sont des erreurs ponctuelles qui ont fait que nous avons perdu contre eux. À un moment, tu peux te reconnaître que ça va pas et que, tiens, tu perds tes deux matchs contre Gérone, tu perds tes matchs contre le Real et tu trouves que tu as été meilleur qu'eux. On a l'impression qu'il y a un décalage entre ce que tout le monde voit et ce que Xavi voit. Même si j'insiste, contre le Real, ils avaient été bons. Hier soir, ils n'ont pas été mauvais.
Polo.
Il en est où, Marc-André, là? Ter Stegen.
Il fait ses arrêts quand même, non?
Moi, je trouve qu'il est toujours là. Il est encore là.
Hein. Tu le trouves pas bon, Polo?
Ah si si. Moi, ah, si. Ouais. J'adore Marc.
Il est toujours bon.
Marc-André Ter Stegen n'a qu'un seul défaut, c'est qu'il y a un mec qui s'appelle Manuel Neuer.
Bah, bien sûr. Ouais.
Mais c'est
le nombre de fois il les a sauvés.
C'est ça.
Après, il a été blessé.
On en avait parlé, ouais. Fred. Tu te rappelles quand il a commencé à arriver, on se disait mais c'est qui ce mec-là? Puis il est devenu l'idole de tout un peuple. Puis là, j'ai l'impression qu'il y a une petite campagne un peu contre lui, et peut-être il y a de la lassitude, je sais pas. Parce qu'il a quoi? Il a 32 ans maintenant, un truc comme ça. C'est tout jeune.
Mais de toute façon, ceux qui critiquent Marc-André Ter Stegen, ils ont qu'à voir ce qui s'est passé avec le Barça quand il était blessé, quand il y a eu son problème de dos là.
Ouais. On évoque souvent les problèmes défensifs du Barça, et il y a des choses effectivement qui sont assez étranges. Mais au niveau de l'attaque, il y a aussi, je regardais les stats offensives, les stats qualité de création d'attaque de la Liga. Par exemple, le Real et Gérone ont marqué 9 buts de plus que leur création totale d'occasion, qu'on regroupe un peu. Vulgairement sous le nom XG. Villarreal est aussi largement au-dessus. L'Atlético est au-dessus. Le seul qui est en dessous et qui sous-performe devant le but, et c'est le Barça, en fait. C'est... Tous les clubs espagnols du haut de classement sont meilleurs devant le but que le nombre d'occasions qu'ils créent. Le Barça est en difficulté, alors qu'il y a quand même un secteur offensif qui est quand même globalement, si on regarde les noms qui sont présents, etc., même les milieux de terrain qui sont censés être capables, d'amener plus de qualité, de technique, de création d'occasion, etc., bah, moi, je trouve qu'on s'y retrouve pas.
Non, on s'y retrouve pas. Et pourtant, il y a de bons joueurs, pourtant, il y a Takam Lewandowski, etc., mais vraiment, le problème cette année, c'est vraiment la défense, quoi. Par rapport à la saison dernière, qui avait été une défense record, là, cette année, c'est catastrophique. Ouais. Parce que hier soir, tu mènes deux fois et tu t'en prends quatre, quoi. Donc,
et le Barça qui conserve quand même 6 points d'avance sur l'Atlético 4e, normalement.
Ouais, mais ce qui compte, c'est la deuxième place. Mais là, ils sont à un point de cette fameuse qualification pour la Supercoupe d'Espagne.
Dans un instant, l'Italie et l'Atalanta. Comment l'Atalanta appréhende ce match retour face à l'OM jeudi? Et l'AC Milan, gros sujet du moment avec Johan. On avait trouvé un successeur à Pioli, finalement. Ce ne sera pas lui. 20h42, vous êtes sur RMC, c'est Génération After, spécial Drôle de Dame. On se retrouve dans un instant.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.
Thibaut Giangrande.
Il est 20h44 et dans une minute ne débutera pas le match de Ligue 1 du dimanche soir. Et oui, nous sommes le 5 mai, pensez aux victimes de Furiani. Pas de match en France le 5 mai. Le Lille-Lyon prévu ce soir aura lieu demain soir 21h. Il sera en intégralité sur RMC, d'où cette soirée autour des drôles de dames. Johan Crochet, Fred Hermel, Paulo Breitner, Julien Laurence sont là jusqu'à 22h. Ensuite ce sera l'after avec Gilbert Bribois. On vous attend au 32-16 pour, comme les lundis soirs, vos questions aux drôles de dames à 21h45. On est en direct également sur YouTube, le chat de la chaîne de l'after. Je lis, il y a quelques messages. Alors on nous dit ce soir, vous lisez pas de messages. N'hésitez pas à upgrader un peu le niveau des messages. Par exemple, il y a Fudo qui écrit Johan Crochet égale Nicolas Pallois. Voilà, c'est des messages comme ça que j'ai envie de lire
alors,
ce soir.
Alors Nicolas Pallois, parce qu'on n'a pas le même corps.
Oui,
mais
Nicolas Pallois.
Voilà.
Ouais. On a même Robert Redford plus Robert que Redford.
Voilà, de loin. Exactement ça. Voilà, le jeu des sosies, on adore ça également.
Thibaut, je connais pas ce mot.
Je le maîtrise pas de fou non plus, je vais pas te mentir, mais.
Alors Polo, si vous voulez élever le niveau des messages.
Alors Polo, je suis désolé, j'ai pas voulu te reprendre tout à l'heure. Tu as dit scoré.
Ah, j'ai discordé, ouais, parce que voilà.
Voilà, donc tu vois, j'ai pas voulu t'humilier, mais là, comme t'as ta Goyman. Voilà.
J'ai plus le droit, non.
Merci Polo.
Le upgradé, c'est dans le dictionnaire maintenant
Je pense que c'est possible que ça y soit, ouais. Tu sais, on est contaminé de partout par les mots anglais.
La défense de Fredo, c'est autre chose que la défense du Barça. Merci mon Fredo d'être là. À suivre, le Real, justement, champion. On va parler également du Bayern avec Polo et la minute de Julien. Mais d'abord, l'Italie avec toi, Johan. Et avant de parler de l'AC Milan et ses discordes entre la direction et les supporters sur le futur coach, l'Atalanta. Comment l'Atalanta, qui jouera demain d'ailleurs, appréhende ce match retour face à l'OM?
Il s'en serait bien passé de ce match à Salerne, parce qu'en plus, déjà Bergame, c'est pas à côté de Salerne, premièrement, même si le match a lieu à 18h. Parce qu'aussi, ils ne peuvent pas faire comme Dortmund, qui était assuré ce week-end d'être cinquième, quoi qu'il arrive, et donc de pouvoir faire tourner sans aucune incidence sur le classement ou le résultat à la fin de la saison en termes de performance collective. Là, l'Atalanta est dans une course avec notamment la Roma, mais la Lazio revient bien aussi, pour attraper cette cinquième place, décrochée grâce au classement voilà. UEFA.
Tiens, on me dit dans le chat.
Il faudrait mettre un euro à chaque fois.
Upgrade égale amélioré, on me dit dans le chat. Merci.
Exactement. Bah, amélioré.
Voilà. Ouais,
et donc, on s'en serait clairement bien passé parce que ça va forcément prendre un peu d'énergie. Alors, la seule bonne nouvelle, c'est que Salerne est déjà relégué et que c'est très compliqué pour eux, même à domicile où ils avaient des performances plus élevées la saison passée. Là, c'est devenu très compliqué. Il y a aussi, on verra comment vont réagir les supporters, hein, parce que être relégué, le Stade les a beaucoup, beaucoup, beaucoup supportés depuis qu'ils sont de retour en Serie A, même dans les moments très difficiles. Ces derniers mois, ça a été vraiment mi figue, mi raisin. Il y a eu des sifflets, il y a eu des chants, des banderoles. Donc, c'était un petit peu plus compliqué pour ce soutien des supporters. Mais, on a évidemment le focus.
Ah non, mais c'est du latin.
Ouais, le focus sur. Ah, je me fie avec Polo qui m'attend avec.
Non, mais en fait, depuis que j'ai dit c'était 1 euro par mot anglais, là, ça y est, là, il fait gaffe.
Ça passe le latin, Polo, ou pas?
Ouais. Ben, je pense qu'on devrait apprendre tous le latin en Europe et ça serait une forme d'européanisation par la langue et la culture qui serait intéressante.
Rosas, Rosa, Rosae.
Bien évidemment. Donc, on a évidemment, et Gasperini l'avait dit avant le match aller au Vélodrome, il avait clairement expliqué la priorité, c'est l'Europa League. La prochaine priorité, ça sera évidemment la finale de la Coupe d'Italie, qui est aussi très importante pour un trophée. On a vraiment l'impression qu'ils sont à la chasse au trophée cette saison, qu'ils veulent valider tout le travail qui a été bien effectué par les dirigeants, par les joueurs, par l'entraîneur, le staff, etc. Et ça, ils veulent le valider par un trophée.
Mais juste, qu'est-ce qu'on a dit? Comment on a digéré cette demi-finale aller contre l'OM? Parce que tu vois, nous en France, et c'est un peu, vous en avez parlé avec Polo lundi dernier. Il y avait cette atmosphère où en France, on disait que Paris était largement favori face à Dortmund, et c'était un peu l'inverse avec Marseille, où tout le monde disait un peu l'Atalanta est largement supérieure. Ouais. Finalement, le match de jeudi, Marseille était très bon. Et bon, mais, qu'est-ce qu'on en dit en Italie?
Bizarrement, beaucoup de confiance dans la presse italienne qui a plutôt apprécié la performance à Marseille. Moi, j'ai été assez déçu de la performance à Marseille, parce que non pas que l'Atalanta a été en dessous de tout, etc., mais Marseille a très bien gêné l'Atalanta et a été aussi à la hauteur sur le plan physique du défi qu'impose toujours l'Atalanta à ses adversaires. Après, techniquement, il y avait des choses à revoir, mais assez confiant du point du match nul ramené, aussi parce qu'on a tout de suite mis l'accent sur l'ambiance au Vélodrome, le soutien du Vélodrome pour l'Olympique de Marseille qui n'aura pas lieu au match retour, et aussi les performances à domicile et à l'extérieur de l'OM, à la fois en championnat et en Coupe d'Europe. Donc c'est quelque part, c'était la satisfaction de pas avoir perdu là-bas et d'avoir une bonne opportunité de te qualifier, et surtout le grand espoir, puisque dans le même temps la Roma a perdu à domicile contre Leverkusen et a très mal perdu et a été très dominé par Leverkusen. L'espoir de se dire, bah, finalement, la finale 100% italienne qu'on espérait, on ne l'aura pas. Mais si on peut en avoir au moins un des deux, ouais, ça sera très bien.
D'ailleurs, la Roma qui vient de débuter son match contre la Juve, hein, ce soir, ouais, en Italie, 4 minutes de jeu, 0-0. Déjà une première frappe de Chiesa qui n'est pas passée très, très loin. L'AC Milan qui a fait match nul aujourd'hui, 3 buts partout, face au Genoa. On croyait l'histoire quasi réglée avec le successeur de Pioli. Ça devait être Lopetegui. Ouais. Et finalement, ce ne sera pas lui.
Non, parce que ça fait des mois que Milan bosse sur l'éventualité d'un changement d'entraîneur, et donc ils étudient les profils, qu'ils se renseignent sur comment les entraîneurs travaillent, qu'ils se renseignent au niveau des dirigeants, qu'ils se renseignent au niveau des joueurs également, pour essayer de récolter un maximum de données, qu'ils étudient justement les données au-delà même de la simple retour d'expérience des gens, mais aussi la donnée, la data, la fameuse data qu'on trouve beaucoup dans le foot et qui est si chère notamment à Redbird, qu'on regarde ce qu'il a fait ses dernières expériences. Notamment, on a beaucoup regardé, mon cher Julien, ce qu'il avait fait à Wolverhampton, et notamment comment il avait relevé cette équipe qui, je vais pas dire qu'il filait en championship, mais de mémoire, ils étaient relégables quand Lopetegui arrive, et il avait remonter l'équipe avec des matchs vraiment références, notamment contre des grosses équipes. Donc il y avait tout un travail très important qui avait été fait, et des retours vraiment excellents sur Lopetegui, y compris au Real, alors que ça a pas duré très très longtemps, mais dirigeants et joueurs du Real ont des très bons souvenirs de Lopetegui, au niveau de la sélection également. Donc on a fait tout ce travail, on était prêt à signer, et puis bah malheureusement le timing fait beaucoup de choses parfois dans le football. Et le timing, ça a été élimination en Europa League contre la Roma après, avec deux matchs catastrophiques du côté de l'AC Milan. Ça a été un derby perdu, là encore, après une prestation très compliquée, et qui a donc donné le titre sur sa propre pelouse. Ils partagent la même pelouse, mais c'est l'AC Milan qui recevait, qui a donné le titre à l'Inter. Donc tout ça a été très très mal vécu par les supporters. Et donc dès que le nom de Lopetegui est arrivé avec une manière insistante dans la presse italienne, notamment Sky, La Gazzetta, etc., eh ben on a eu des pétitions en ligne, on a eu les réseaux sociaux qui se sont enflammés, on a eu également la Courva Sud de Milan qui a expliqué qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça. La Courva Sud, c'est le virage des supporters ultra. De l'AC Milan. Et donc, on a eu une espèce de fronde organisée, plus ou moins organisée d'ailleurs, avec notamment des influenceurs, enfin pas mal de choses. Et il semble que Jerry Cardinal a eu un peu peur. Jerry Cardinal, le propriétaire de l'AC Milan, qui est le mec de Redbird, le vrai propriétaire de Milan, qui a eu une crainte de se dire. C'est pas tant la crainte d'être critiqué à l'instant T, c'est la crainte de se dire, est-ce qu'on peut démarrer une saison, la prochaine, avec des supporters qui sont déjà mécontents du choix de l'entraîneur, et donc de commencer une saison avec une fronde des supporters qui va nous mettre dans une position quasiment intenable dès le début de la saison.
Mais ce qui est fou, c'est que j'ai pas l'impression qu'on parle de Lopetegui. Enfin, je sais pas, Fredo, tu vas me dire.
Mais moi, ça me paraît dingue.
C'est pas horrible, Lopetegui. Même, Lopetegui. Hein,
ouais, Lopetegui, c'était.
Oui. Mais j'ai l'impression qu'on parle de, tu sais, comme si Rudy Garcia devait arriver, avec la popularité qui est la sienne, qu'on aime ou pas.
C'est pas Lopetegui. Il a pas eu beaucoup de chance dans sa carrière. Enfin, c'est un très bon entraîneur. Enfin,
mais
c'est un super en plus. Donc, non, surtout, mais moi, je trouve ça. Mais moi, si tu me permets, cette dictature des supporters, moi, me dérange, quoi. Enfin, je veux dire, ça me dérange. Enfin, d'une partie des supporters. Comment
c'est sur les réseaux sociaux et c'est
oui, mais c'est ça. Enfin, parce que t'as employé des mots influenceurs, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas des gens derrière des. Il n'y a pas des gens derrière tout ça. Tu comprends?
Honnêtement, moi, j'ai vu le développement. Vous savez que la Bundesliga a moins de notoriété que différents d'autres championnats, déjà parce que la langue n'est pas la même et il n'y a pas la même immigration, etc. J'ai vu en France se développer ces sites pro Bayern, pro Leverkusen, pro ce que tu veux, etc. Tu vas dessus. À part vomir sur les joueurs, à part demander le changement tous les deux mois du coach, l'histoire du club, Je suis pas persuadé qu'ils la connaissent beaucoup. Je suis pas persuadé qu'ils soient déjà allés en Allemagne pour aller vérifier comment ça se passe dans le stade. Je suis donc toutes ces choses-là. Je sais pas si c'est vraiment intéressant
c'est
de ça.
C'est pas que ça.
Non, c'est pas que ça. C'est pour ça que j'ai précisé qu'il y avait aussi la Cour d'assises de Milan qui avait fait un communiqué, etc.
Des communiqués, tout ça. Ok.
C'est un peu des deux, et c'est sans doute ce qui a fait peur, parce que à la limite sur les réseaux sociaux, tu peux peut-être gérer contre tes présidents, et après chaque défaite, de toute façon, les dirigeants se font insulter, etc. Mais
ça, tu l'expliques, Yo, pourquoi?
Bon, moi je vois une chose.
C'est pas
claire.
Limpide, d'accord. Mais je veux
non,
dire,
à part une chose claire et évidente. Enfin, il y a deux choses. La première, quand je parlais du timing, c'est clair, c'est que quand c'est sorti, tu restais sur des énormes déceptions et pas des petites. Offrir le
Scudetto. Il fallait critiquer le.
À l'Inter,
les dirigeants.
Il fallait leur mettre dans la tête quoi qu'il arrive. Et la deuxième chose, pour moi, c'est un manque de culture de beaucoup de supporters en Italie qui ne regardent que la Serie A et donc qui ne savent absolument pas qui est Lopetegui. Je vais vous donner un exemple. J'ai un bon ami journaliste à moi qui m'a envoyé une capture d'écran. Il parlait sur Twitter de Lopetegui en disant bah voilà, il a fait plein de bonnes choses, etc. Et le mec lui répondait ouais, mais Lopetegui il a réussi qu'à Villarreal. Problème, c'est que Lopetegui a jamais entraîné Villarreal.
Bien sûr.
Donc le manque de culture, il est évident. C'est-à-dire que les mecs ont juste dit Lopetegui, c'est pas Tuchel, c'est pas Guardiola, c'est pas je sais pas, vous prenez Nagelsmann, ce type d'entraîneur dont les supporters de Milan rêvent. Et ils se sont dit, bah, nous, on veut pas de ce mec-là. Ouais. Sauf que eux, ce qu'ils veulent, c'est Antonio Conte, par exemple. Il y a beaucoup de supporters qui auraient adoré avoir Conte.
Ah, bah, au niveau du jeu, c'est pas la même chose, hein.
Déjà, au niveau du jeu, c'est pas la même chose. Deuxièmement, il faut quand même leur rappeler que la finale de l'Europa League 2020 opposait Séville à l'Inter. Et celui qui a mis une leçon de football à l'autre,
bah,
il était sur le banc de Séville, c'était Lopetegui.
Bah, ouais.
Troisième chose, c'est qu'avec Antonio Conte, bah, pour passer la phase de groupe de Ligue des Champions, c'est compliqué. Quand t'as des ambitions en Ligue des Champions comme la Redbird, bah, pourquoi s'appuyer sur Antonio Conte? Et quand il passe la phase de groupe de la Ligue des Champions, Antonio Conte, il tombe contre l'AC Milan, mon cher Julien, et il se fait éliminer par l'AC Milan de Krunic, Messias, Thio et Tomori. Mmh. Peut-être se détendre un peu avec les noms et regarder.
On a récupéré Lopetegui chez nous, hein. Il va venir à West Ham normalement pour remplacer le dinosaure David Moyes.
Mais en fait, le problème de Lopetegui, c'est qu'il a manqué de chance. Il a eu sa décision dingue d'un type qui a mal fini, hein, qui s'appelle Rubiales, hein, l'ancien président de la fédération. Je vous rappelle qu'il l'a viré 48 heures avant le début du mondial russe, hein, en 2018, parce que il avait annoncé avoir un accord
avec le Real.
Après la Coupe du Monde, après au Real. Et puis au Real, quand tu viens de passer, tu passes derrière Zidane, qui vient de gagner 3 Ligues des Champions, automatiquement, c'est compliqué, quoi. Donc, il a pas eu de chance, Lopetegui, mais c'est un très bon coach.
Et il y a surtout une chose, c'est quel précédent ça va créer, ça?
Ah bah,
le nouvel entraîneur qui va arriver, si au bout de 10 matchs il y a des problèmes, on remet la pression, on refait des tweets, des je sais pas quoi, des communiqués de la Coupe Assoud.
Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus. Peut-être Pioli d'ailleurs, à suivre.
Non, Pioli évidemment. Non.
Pioli non, c'est fini. Pioli c'est fini, comme le dit la chanson.
Bien sûr, il y a 415 noms annoncés maintenant.
Dans un instant, la minute de Polo et le Real champion en pleine confiance avant sa demi-finale retour face au Bayern. Toujours 0-0 entre la Roma et la Juve. Barre transversale à l'instant, trouvée par la Roma. 20h57, vous êtes sur RMC, c'est Génération After spécial Drôle de Dame en cette fin de week-end en direct jusqu'à 22h. A tout de suite.
RMC. Les gens vont penser que c'est pas vrai. Florentino vient de m'envoyer un message du mariage de Ramos avec une vidéo de ses retrouvailles avec Beckham. Je vous jure que c'est vrai.
C'est quelqu'un d'une intelligence suprême, terrain, suprême, quelqu'un qui est aussi attachant. Parce que...
On va se calmer.
Ah non, mais suprême, il a un QI qui est largement au-dessus du tien, Fred.
Le seul truc qu'on voit vraiment de palpable et qui est palpable visuellement. Rien dire ce que j'y mets.
Je ne donne pas de notes. C'est insupportable de donner une note. La poste vient de voir, tu reçois un mail en disant faut le noter. Tu regardes un film, on te dit si t'as plu, il faut le noter. Ben, allez vous faire boire, les gars.
20h-22h, Génération After.
Thibaut Giangrande. Quel plaisir de terminer le week-end en compagnie des drôles de dames. Polo Breitner, Julien Laurence, Yoann Crochet, Fred Hermel.
On parle QI avec...
Jusqu'à 22h. QI.
QI, ouais.
QI, ouais. En direct jusqu'à 22h. Ensuite, ce sera l'after autour de Gilbert Brivois, Florent Gautreau et Walid Acherchour jusqu'à minuit. La Ligue 1 sera de retour demain. On conclut ce week-end ensemble et on lance cette semaine européenne qui concerne nos clubs français, qui concerne l'autre demi-finale de Ligue des Champions. Dans un instant, le Real au programme, le Bayern également, le 32-16, vous nous appelez et à 21h45, vous posez vos questions aux drôles de dames. Et bien sûr, toujours YouTube, le chat où il y a monsieur Manhattan qui écrit à choisir, je prends plutôt Elibop que Lopetegui. N'hésitez pas à continuer à être efficace. Dans un instant, la minute de Polo.
Ah, Menotti vient de mourir. Menotti.
Ah, j'ai vu ça aussi.
Ah, ouais, Menotti, ouais.
À l'instant là
c'est parce que je vois sur Twitter. Donc voilà, c'était quand même quelqu'un dans le foot.
Et dans l'intervalle, je vous annonce également ça n'a rien à voir, mais c'est factuel. L'ouverture du score de la Roma face à la Juve, Lukaku.
Un but de Lukaku, ouais.
Voilà. 1-0 ce soir, pour l'instant, pour la Roma, 17 minutes de jeu. L'Oréal, Polo, champion d'Espagne. On a parlé de Gérone tout
moi,
à l'heure.
Moi, c'est Fred, mais...
Fred. Oui, mais il y a quelque chose, vous ressemblez, c'est pour ça.
Mais on a plus de cheveux, on est vieux, et nos deux clubs se rencontrent mercredi, c'est ça.
Tu es vieux, moi j'ai encore du succès avec la jante féminine. Je crois
bah, et moi plus qu'avant d'ailleurs, surtout en vieillissant.
Surtout depuis que t'es de retour dans le game, Polo. Le 36e titre en Liga, Fredo, en pleine confiance avant cette demi-finale retour face au Bayern. Équipe Paris remaniée largement.
Ah bah oui, bah, de toute façon, à partir du moment où... Enfin, alors là aussi, on va commencer par un petit coup de gueule, qui a une très belle chronique dans Marca aujourd'hui en disant, mais franchement, la guerre permanente dans toutes les instances du foot espagnol est chiante. Pourquoi le Tebas, le président de la Liga, n'a pas permis d'intervertir les deux matchs pour que le Real, c'est-à-dire le match Gérone contre le Barça, s'est joué après le Real Cadix. C'est-à-dire que le Real aurait pu fêter son titre en l'emportant contre Cadix et fêter ça avec ses supporters. Alors que là, il a fêté ça dans le vestiaire.
Oui, d'accord.
Non, mais je veux dire, c'est quand même ridicule. Alors, ce qui est totalement contre-productif, c'est-à-dire que ça aurait donné beaucoup plus d'intérêt au niveau de la retransmission au match contre Cadix. Et de voir les supporters qui fait décamper, oui, tu vois, parce oui, que t'as une espèce de dramaturgie en disant voilà, Gérone a battu le Barça, si le Real bat Cadix, le Real est champion, et donc tu avais les campeones qui se mettaient en place, quoi. Donc
non, mais il a raison, Fredo, c'est un point très important, et quand on parle d'expansion dans d'autres pays, la qualité des images qu'on envoie aux autres pays, etc., rien ne vaut un titre fêté sur le terrain, et on a eu cette polémique là l'année dernière en Italie par rapport au Napoli. Où on avait fini par avancer un match parce que sinon ça risquait de se passer sur le canapé des joueurs du Napoli, ça avait aucun sens.
Mais voilà, c'est pour ça. Parce qu'en plus t'as la dramaturgie, puis t'as les images et tout. Puis au bout du deuxième but, les gens qui sont campeones dans le stade. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a bon, ça c'est je file aparté. Donc oui, le Real avec plein de remplaçants et le Real qui a battu Cadiz qui se bat pour pas descendre en deuxième division. Alors 36e titre du Real Madrid. L'un des plus faciles de l'histoire. Alors, je suis désolé, vous allez me faire... Moi, je suis ravi que le Real l'a emporté, parce qu'il n'y a pas de doute. C'était de loin la meilleure équipe de cette Liga. Après, vous vous souvenez, à l'époque, on disait « C'est chiant, la Liga, il n'y a que deux clubs ». Bah, elle était dorée, cette époque. Hein. Parce que là, en ce moment, il n'y en a qu'un. Et c'est vrai que c'est, moi, je me souviens... Alors, vous étiez petit, mais quand le Real perdait à Tenerife sur une erreur de Paco Bouillot, deux Ligas de suite contre le Barça, quand
Djukic... Ouais, que toi qui t'en souviens du coup.
Bah oui, bah non, mais quand Djukic, joueur du Deport, du Super Deport, manquait un pénalty contre Valence et que c'est le Barça qui était champion, voilà, quand le Real de Zidane qui perd à domicile sur un but de domicile à la dernière minute dans le Classico et qu'après il va gagner 6-2 à la Corogne avec l'équipe B. Enfin, il y a...
Après, tu dis ça comme si on était parti pour un... Tu penses qu'on est vraiment parti pour un cycle comme ça ?
J'ai l'impression, parce que le problème aujourd'hui, c'est que le numéro 2, c'est Gérone. Bon, est-ce que Gérone sera capable d'être aussi fort la saison prochaine ? On en doute. L'Atlético montre ses limites. Aujourd'hui, l'Atlético est à 20 points du Real. 20 points, vous vous rendez compte, c'est énorme. Vous avez le Barça qui est dans une crise structurelle, avec des problèmes financiers. Et les règles du fair play financier espagnol qui font que ils vont pas pouvoir recruter beaucoup, et en tout cas ils vont devoir vendre des joueurs. Araujo, bon, tu me diras, il est pas très bon Araujo en ce moment, mais c'était quand même l'un des meilleurs joueurs de cette équipe l'an dernier qui va sûrement être vendu. Donc voilà, tu te dis, est-ce qu'il y a pas une dynastie qui va s'organiser, enfin se mettre en place avec un Real qui va gagner facilement tout les Ligas. Moi le suspense n'est pas tout dans le foot. Mais c'est quand même agréable quand t'as des titres qui jouent la dernière journée, quoi, ou qui jouent sur le dernier Classico. Donc moi, alors, je trouve ça un peu dommage. Après, on va pas enlever au Real le fait d'avoir été, ils n'ont perdu qu'un seul match, c'est contre l'Atlético, c'est tout. Enfin, je veux dire, et ça fait 28 matchs sans défaite. Ils ont égalé un de leurs records. Donc non, ce Real était largement au-dessus de tout le monde en Liga.
Alors l'événement autre de cette validation du titre, c'est le retour de Courtois, titulaire dans le but. Bon, clean sheet.
Non, mais en plus, le truc, il fait deux arrêts, donc un contre un exceptionnel.
Et du coup, ça peut être un problème, ça. Il peut y avoir débat pour la Ligue des Champions. Non,
ah bah, je pense. Alors, il y a deux joueurs qui reviennent là qu'on n'attendait pas, parce que c'était le ligament croisé pour Militao et pour Courtois. Militao rejoue depuis quelques temps. là il a joué tout le match, etc. Il avait fait des bons matchs. Sincèrement, Militao, c'est pas du tout la même position, gardien et défenseur. Militao, tu sens qu'il a encore un peu de mal à aller au contact. Mmh. Tu sens qu'au niveau de la vitesse, il est pas encore totalement sûr de lui, tu vois, dans le démarrage, etc. Donc, je ne pense pas, après, je peux me tromper, je pense pas que Carlo prenne le risque de le faire jouer contre le Bayern, ce mercredi. Et il y aura peut-être un doute jusqu'à la fin s'il y a une hypothétique finale. Par contre, Courtois, alors, ce mercredi, c'est Lounine qui va jouer.
Ça, on en est sûr.
Carlo l'a dit, donc il va pas changer.
Okay.
Mais il y a encore 4 matchs, si je dis pas de bêtises, 4 matchs où Courtois pourrait être titulaire d'ici à la finale, s'il y a finale. Là, franchement, ça va être un crève-cœur pour Ancelotti. Parce qu'Ancelotti, c'est quelqu'un d'extrêmement humain et qui va devoir, faire voilà, parce que Lounine, le Real en est là aussi parce que Lounine a fait une très belle saison, surprenante.
Je vous rappelle, on a arrêté de le dire toute l'année qu'il
était numéro 3, hein, parce qu'ils avaient pris Kepa pour remplacer Courtois. Et donc, le type, s'il t'amène en finale et qu'il n'est pas en finale, mais après, à un moment, il faut penser à.
Il se rappelle aussi qu'en 2022, c'est Courtois
qui Benzema.
C'est plus facile de laisser sur le banc Lounine que Courtois.
Mais bien sûr. Même si non et puis Courtois il est exceptionnel, donc on va voir ce qui se passe. Mais là, première fois où il a un contre un, il est magnifique. Courtois en plus qui a eu une saison terrible parce qu'il s'était fait le croisé et après il s'était reblessé au ménisque. On pensait qu'il n'allait pas du tout revenir cette saison et il est là et il est bon. Et d'ailleurs il y a une petite phrase de Carlo ce week-end qui montre qu'il sait aussi être pragmatique, c'est-à-dire qu'on lui a posé la question sur Arda Güler, pourquoi est-ce qu'il a il a pas trop joué cette saison, pourquoi il l'a sorti hier, il était tireur, pourquoi il l'a sorti, etc. Il a dit au Real, on me demande de gagner, pas de donner des minutes de jeu aux jeunes. En gros, on me demande de gagner. La finale, même si humainement il est très, ça va être un crève-cœur pour lui. Je pense que la question de mettre Courtois va sérieusement se poser.
T'as vu, Polo, il est déjà en finale, Courtois. Fredo.
Non, mais parce que là, automatiquement, non, j'ai dit une hypothétique finale.
Oui, c'est vrai que tu l'as dit une fois, tu t'es forcé au début.
Mais non, mais c'est pas. Mais non, mais c'est logique.
On va en parler d'ailleurs du Bayern dans quelques instants. Donc oui, la défense. Pour ce match, donc Lounine, Nacho, Rudiger,
on va voir, mais voilà, mais l'équipe, on l'a sait à peu près, hein, c'est à peu près celle de la. Il y a Carvajal qui revient à la place de Lucas Vázquez, Carvajal qui était suspendu, et c'était un problème contre le Bayern, donc. Mais voilà, tout va bien au Real. Là, ils se sont reposés là. Vinicius a couru un petit peu et c'était un petit entraînement, mais voilà, donc c'est
le Bayern, c'était idéal. Hein, l'adversaire. On en parle dans un instant avec Polo, mais d'abord, c'est justement la minute de Polo.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Good evening. Buenas noches, señoras y señores.
Mesdames et messieurs, bonjour.
Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen. Willkommen.
Un peu de musique électro, ça fait.
C'est Kraftwerk.
Ça fait du bien. Non, alors t'es pas loin. Parce que c'est Karl Bartos qui a travaillé pour Kraftwerk il y a longtemps et qui a monté ce groupe, notamment cet album s'appelle Esperanto, le groupe s'appelle Musique Électrique, Electric Music. Cette musique date de 1993 et donc j'ai voulu mettre ça parce que j'ai commencé mon dimanche avec un partenariat. Je suis allé sur une chaîne allemande qui s'appelle RTL Deutschland évidemment, qui appartient au groupe Bertelsmann, et j'ai vu qu'ils avaient passé un partenariat avec Sky Deutschland qui détient la plupart des droits en Allemagne du football, mais aussi de la Formule 1 ou d'autres. Et en fait, tu te rends compte qu'ils ont réussi à passer un partenariat où, en gros, la RTL Deutschland va pouvoir diffuser 7 matchs de Formule 1, mais aussi des matchs de conférence. Alors, conférence, comme on appelle ça, le multiplex, on appelle ça en français, de seconde division. Il y a les matchs d'Europa League, etc. Et ils se prêtent les commentateurs, ils se prêtent les experts, etc. Et je trouvais le concept assez intéressant parce que c'est une forme de produits d'appel, c'est-à-dire toute l'année sur RTL Deutschland, tu n'as pas évidemment la seconde division ou toutes les matchs d'Europa League, mais il y a ce partenariat que je trouve assez intéressant. Donc je ne sais pas si ça existe dans d'autres pays, mais en tout cas le concept m'intéresse parce que ça te permet, si tu préfères certains commentateurs ou experts de chaînes par rapport à d'autres, je trouvais ça intéressant. Donc
c'est,
voilà.
C'est en clair, Polo
Ouais, c'est en clair, c'est ça qui est très intéressant.
Ça
fait un peu produit d'appel pour Sky Deutschland évidemment, de faire ça. Et par exemple, le match de Leverkusen en Europa League contre la Roma, je l'ai vu sur RTL Deutschland. quand je dois passer sur la Bundesliga, je passe sur Sky, etc. Mais surtout, c'est pas payant. Et ça, je trouvais ça très intéressant, même si tu n'as pas le produit global.
Bien sûr, bien sûr. Mais c'est intéressant, tu as raison, parce que, en fait, les chaînes réfléchissent de plus en plus. En Italie, ils ont beaucoup réfléchi au moment du dernier appel d'offres à mettre des matchs en clair.
Ben, je suis d'accord avec toi. Parce que ça permet d'éditorialiser d'une façon très intéressante parce que tu n'as pas le produit global.
Exactement.
Donc t'es forcé de travailler, entre guillemets.
Et surtout, mine de rien, il n'y a plus grand chose comme football en clair dans nos télévisions. Oui. Et ils estimaient que ça pouvait être aussi un très bon produit d'appel pour développer les droits télé, pour amener les gens à s'abonner de manière plus efficaces sur les autres, hein, parce que nous c'était DAZN qui a les droits, mais on parlait beaucoup de Mediaset pour Leclerc par exemple. Ouais. Et d'ailleurs on voit que Mediaset, quand ils ont eux la Coupe d'Italie, la Super Coupe d'Italie, et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des matchs de Ligue des Champions en clair, ça cartonne.
C'est grave, bien sûr.
Ça cartonne.
Et puis un match de Première Ligue par semaine, j'avais oublié, qui comme par hasard c'est souvent Liverpool. Je sais pas pourquoi, mais voilà.
Non, bah non, nous en France on a Fred Hermel sur BFM TV, mais
bon, ça, c'est en clair. Hein.
C'est en clair, mais. Mais tu parles plus souvent de foot, je crois.
Ah, si, l'autre jour, j'ai parlé de foot, je crois. Ah. Oui, ça m'arrive.
Pas sûr.
Oui. Mais toujours un aspect un peu politique du foot.
Il est 21h13 dans un instant. Le Bayern, justement, Polo, le Bayern battu une nouvelle fois hier à 3 jours désormais de sa demi-finale retour face au Real Madrid. Tu nous raconteras cette défaite inutile, selon Thomas Tuchel. Bayern qui se cherche d'ailleurs toujours un coach. On parlait de l'AC Milan tout à l'heure. Et puis, bien sûr, le 32-16. On vous attend. N'hésitez pas à vos questions aux drôles de dames. Vous nous appelez à 21h45. Vous êtes en direct sur RMC. Face à Polo, face à Julien Laurence, face à Fred Hermel et face à Yoann Crochet. A tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Thibaut Giangrande.
Avec les drôles de dames en cette fin de week-end, vous êtes sur RMC, vous avez bien fait, la Ligue 1 n'est pas là ce soir, 5 mai, hommage aux victimes de Furiani, on aura Lille-Lyon demain en direct sur RMC, conséquence, les drôles de dames sont là 24 heures plus tôt et quel plaisir de conclure ce dimanche avec Yoann Crochet, Fred Hermel, Polo Breitner et Julien Laurence. On est en direct jusqu'à 22h, vous rappelez, Fredo en parlait tout à l'heure, le décès de César Luis Menotti, le sélectionneur de l'Argentine, championne du monde 78, rendez-vous à 22h dans l'after avec un invité pour revenir sur ce décès ce soir. Il avait 85 ans. Un hommage lui sera rendu dans l'after. Un partout entre la Roma et la Juve, mon cher Ivan.
But de Bremer sur un centre et donc du aérien, c'est la qualité principale des hommes de Massimiliano Allegri, le jeu aérien.
Ça c'est bon, encore un tac.
Non. En gros, c'est que bon, allez, on centre et puis il y a bien une tête qui va reprendre.
C'est un peu ça.
À suivre, le point sur la course au maintien justement en Serie A. On parlera également avec Julien de Foden, élu meilleur joueur de Première Ligue. Il reste encore 3 voire 4 journées pour quelques équipes. On est toujours en direct sur YouTube. On parlait de droit télé là avec Polo dans la minute il y a quelques instants. C'est Sofiane qui a écrit un message en disant que la chaîne L'Équipe faisait pareil. Cette année, c'est vrai, on a le Prime qui fait ça avec L'Équipe sur la Ligue 2. Il y a la Ligue 2 en clair le vendredi sur L'Équipe, donc ça se fait un petit peu à plus bas niveau. Ah non,
en Espagne, tu as toujours, c'est une vieille tradition, tu as toujours un match en clair, hein, ouais, le championnat. Bon, c'est pas les grosses affiches.
Ouais. Mais bah, nous, en Ligue 1, il y en a zéro.
Zéro, ouais. Mais en Espagne, c'est vraiment.
Il
n'y
a toujours pas de droit d'ailleurs, on n'a toujours pas le diffuseur pour la saison
le milliard
en Ligue 1. Voilà, le milliard ou presque. Polo, le Bayern battu à nouveau hier, battu face à Stuttgart 3-1. On est ce soir à 3 jours de la demi-finale retour de Champions League face au Real. Défaite inutile, dit Tourelle, dans quel sens?
Ouais, j'aime bien ce concept parce que souvent on fait reprendre, est-ce que tu as déjà vu une défaite utile? Mais dans le cas présent...
C'est les défaites encourageantes d'habitude.
Ouais. Mais en fait, bon, déjà, Tourelle avait fait évidemment une rotation le plus possible en fonction du match contre le Real. C'était un match malheureusement important. Moi, je suis très en colère contre la 5e place, par exemple, que le football allemand s'est permis d'acquérir pour la prochaine Ligue des Champions. Parce que tu te demandes si on ne fausse pas finalement le championnat, ce qui n'a pas été le cas pour le Borussia Dortmund évidemment, mais s'ils n'avaient pas leur 5e place, ils n'auraient jamais fait tourner comme ça, quoi. Donc il peut y avoir des conséquences. Et là on avait évidemment Stuttgart qui est la révélation de la saison, évidemment avec Leverkusen qui jouait le Bayern Munich qui n'en a strictement rien à faire puisqu'ils sont déjà qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, et à la rigueur c'est qui finira second de la Bundesliga. Et là, si tu veux, tu vois bien lorsque tu vas chercher un petit peu les statistiques ou tu regardes la rencontre que la pression de défaite inutile, c'est que, pour ce que veut dire Thomas Tuchel, c'est que pour la confiance, on aurait fini à 1-1, ça aurait été tranquille. Le Bayern craque dans les 10 dernières minutes à 2 reprises. On a fait tourner. Malheureusement, à l'inverse du Borussia Dortmund, Davis et Tell n'ont pas utilisé leur chance, hein, parce qu'ils étaient titulaires au départ. Et tu peux aller chercher le 36e but en Bundesliga, si tu veux, d'Harry Kane. Mais je pense que cela n'aura strictement aucune influence sur la rencontre de mercredi, qui sera très, très importante. Et tout le monde est focalisé. Le problème... c'est que Guerrero, eh ben, il a eu un problème au pied, il est out. Donc, rappelez que lors du match à
l'époque
au Real, il est. Ah ben il est fini. Ah pardon, oui, pardon, oh là là.
Il est forfait.
Il est forfait.
Le bon élève derrière forfait, là-bas.
Et donc il est rentré, rappelez-vous, à la mi-temps, à la place de Goretzka, il avait réussi une très très belle, une très bonne seconde partie de période. Et ça, c'est un peu délicat, parce que ça permet, on a de moins en moins de joueurs au Bayern Munich, et d'ailleurs c'est toute la saison, il y a eu des blessés dans tous les sens, donc on verra ce que ça va donner, évidemment, contre le Real, mais en tout cas du côté du Bayern, cette défaite inutile justement n'a pas beaucoup influencé les déclarations des joueurs. Quoi.
Et on parle plus en Allemagne, Polo, de cette demi-finale retour ou du futur coach.
Assez fou, c'est-à-dire que il faut vraiment avoir vécu en Allemagne pour comprendre ce que peut représenter le Bayern lorsque le Bayern va bien ou ne va pas bien. La recherche du coach, ça devient de l'entraîneur, pardon, ça devient n'importe quoi. C'est-à-dire que même les émissions grand public font des émissions spéciales pour expliquer mais comment se fait-il que trois entraîneurs aussi talentueux soient-ils, donc Nagelsmann, Alonso et Ralf Rangnick ont refusé le poste 2024-2025. Et évidemment, on se met à parler des éléphants, hein, donc Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Herbert Heiner, etc. Et je donne un exemple. Il y a 72 heures, il y avait une émission où avait été invité Jürgen Klinsmann, donc ancien joueur et ancien entraîneur du Bayern Munich. Et on lui dit, mais vous voudriez pas y aller et tout ça. Il dit, non, ça va, j'ai assez donné. Et en fait, derrière toutes ces critiques, tu as le style de management qui est souvent très conflictuel, justement, du Bayern Munich qui ressort. Et on ne sait jamais vraiment qui est le vrai décideur au Bayern Munich. Est-ce que c'est Uli Hoeneß qui nous a sorti encore une de ses phrases en gros, je vais rester poli, si vous voulez que je ferme ma bouche, eh ben, il faut me virer. Lorsque Rummenigge, première période, n'était plus le président du Bayern Munich, je me rappelle qu'il faisait des interviews tous les mois pour, en gros, dire, un, qu'il existait toujours, et deux, qu'il passait son temps à dire, mais le Bayern, là, ça va pas parce qu'il y a ça qui va pas, parce que tel coach est pas bon, parce que ce joueur est pas bon, etc. Donc, on est dans une forme de comédie permanente, on n'est pourtant pas en Italie, mais le Bayern Munich fonctionne comme ça, et je me mets parfois à la place de Max Eber, le nouveau directeur sportif, ce doit pas être tous les jours évident.
Et on n'en sait pas plus sur le favori du coup maintenant.
Bah écoute, moi j'avais été interviewé par RMC hier, si ma mémoire ne fait pas défaut, on m'avait demandé qui je pensais pourrait être une bonne solution. J'avais dit mais Roger Schmidt de Benfica pourrait être un candidat naturel parce qu'il jouit d'une excellente notoriété en Allemagne avec son passage à Leverkusen évidemment, et ce qu'il a réussi à Benfica et aux Pays-Bas. Et 2 heures après, il sortait un communiqué comme quoi il voulait pas y aller. Donc si tu veux, au bout d'un moment, ça devient un petit peu compliqué. N'oublions pas que le Bayern Munich ne sait pas exactement quel type d'entraîneur il souhaite. Quand je dis ça, c'est est-ce qu'on veut un contrat d'un an pour préparer une nouvelle arrivée en 2025 qui serait évidemment l'Espagnol Alonso ou l'Allemand Jürgen Klinsmann, ou si on veut quelqu'un qui prépare
un
nouveau cycle sur 2-3 ans par exemple.
Le Bayern Munich face au Real, demi-finale retour de Ligue des Champions, ce sera mercredi, hein, semaine de fou qui vous attend sur RMC. On la lance dès ce soir avec les drôles de dames. Demain, la Ligue 1 l'affiche entre Lille et Lyon, et ça enchaîne ensuite avec 3 soirs de Coupe d'Europe avant le retour de la Ligue 1. Avant de faire un point sur la course au maintien et revenir sur l'élection peut-être un peu anticipée de Phil Foden, meilleur joueur de Première Ligue, la minute de Julien tout de suite.
Les meilleurs auront reconnu bien sûr David Bowie avec Moonage Daydream, pour moi l'une de ses meilleures chansons. Et une version un peu particulière parce que c'est la version enregistrée avec John Steele, qui était l'un des premiers très grands journalistes de musique ici en Angleterre, qui a lancé beaucoup de groupes de rock, notamment de rock indépendant aussi ici en Angleterre, dans toutes ses émissions de radio à lui.
En anglais, le mot disque jockey vient de là, en fait, vient de ces animateurs d'émissions de radio musicales, notamment sur la BBC, qui lançaient comme ça des groupes, notamment très jeunes, que personne ne connaissait et qui les rendaient très célèbres. Et donc, John Peel, dans sa magnifique carrière, lui qui est mort il y a quelques années quand même, mais dans sa magnifique carrière, enregistré aussi, dans ses studios à lui des versions avec les plus grands artistes anglais, notamment David Bowie, l'un de ses plus grands amis. Et pourquoi je vous parle de John Peel et de David Bowie? Parce que John Peel était un grand supporter d'Ipswich. Ipswich qui vient hier d'être promu en Premier League 22 ans après avoir quitté l'élite anglaise. 22 ans, c'est long pour un club comme ça, un club assez historique d'ailleurs. Pour les plus vieux, hein, comme Polo et Fredo, vous rappelez sûrement les belles équipes d'Ipswich dans les années 80, bien sûr. Johan Lehmann, on est trop jeune, mais Thibaut, toi aussi. Mais pour les plus anciens, voilà, c'est un grand club anglais qui, malheureusement, depuis très longtemps, végétait un petit peu, pas simplement en Championship, mais aussi en League One. Parce que ce qui est beau aussi dans cette promotion, dans la montée d'Ipswich hier, c'est que c'est la deuxième de suite. Ils étaient en troisième division, ils sont montés l'été dernier en Championship. Et donc, pour la première fois depuis très longtemps, Southampton, je crois, il y a 15 ans, une équipe enchaîne deux montées de suite, ce qui est assez incroyable, avec ce jeune entraîneur, Kieran McKenna, qui a 37 ans. Lui, l'ancien adjoint notamment de Solskjaer à Manchester United, qui était un entraîneur chez les jeunes à Tottenham et à Manchester United aussi, et qui, dans ses deux saisons pleines, parce qu'il est arrivé dans sa première saison, il était arrivé au mois de décembre, vient donc d'enchaîner deux promotions consécutives dans ses deux premières saisons pleines, un peu ce que Xabi Alonso a fait avec Leverkusen dans sa première saison pleine comme entraîneur. Lui a fait un petit peu pareil à son niveau à lui. Incroyable d'ailleurs, depuis son arrivée à la tête d'Ipswich, aucun entraîneur anglais dans les quatre divisions professionnelles n'a remporté plus de points que lui. Pas Arteta, pas Guardiola, pas Klopp, personne. Donc voilà, c'est aussi le succès de Kieran McKenna, l'un des plus prometteur entraîneur de cette génération britannique.
Et la Premier League, on en reparle dans un instant avec ce statu quo dans la course au titre et Foden élu meilleur joueur. Je passais des messages sur ton choix musical sur YouTube, Julien. Il y a Mara qui écrit: on s'en fout, mais nous les To Be Free. C'est là que je me dis, il manque peut-être la minute du présentateur, tu vois. Le choix
non.
De
non, To Be Free, non. C'est pas anglais, hein, c'est pas chez moi, donc non, moi, je peux non, pas mais... mettre un.
Non, mais français. C'est là, oui, mais bon, après, ils ont chanté un peu en anglais parfois, il y avait des refrains.
Ouais, mais c'est sûr que non. Tu veux que pour les bons raisons de l'émission, là ou...
Bah oui, évidemment, mais justement.
Parce que To Be Free, enfin, c'est, voilà. Bon, c'est.
Moi, ce que je voudrais, c'est amener mes choix musicaux et justement vous entendre les commenter.
C'est pas ça, les mêmes que le cinéma, ça.
Ouais, là, ça risque d'être compliqué, là.
Ouais. Paul Breitner, Fred Hermel, Julien Laurent, c'est Johan.
Est-ce que tu aimes le maudit, Thibaut?
Le maudit?
Aime le maudit, le film.
Aime le maudit.
De avec Bardot?
Oh, d'accord, allez.
21h27. Dans un instant. Non, on continue.
C'est un chef-d'œuvre, faut que tu vois ça. Aime le maudit, c'est un chef-d'œuvre du cinéma mondial, allemand.
On est en direct jusqu'à 22h, on continue sur le
film. Parce que tout à l'heure, je lui ai parlé d'Hiroshima pour l'amour, il m'a regardé avec des grands yeux.
Oui, on a parlé un peu cinéma hors antenne avec Fredo. On n'est pas d'accord sur tout. On va dire ça comme ça. D'ailleurs,
Fritz Lang est un des plus grands réalisateurs du monde, tu sais.
Ouais. D'ailleurs, souvent les gens.
Aussi bien sa carrière allemande que sa carrière aux États-Unis.
Dans un instant, on fout, ça vaut mieux pour vous. 21h45. Vos questions aux drôles de dames, n'hésitez pas. Le 32-16, vous nous appelez. Vous êtes en direct sur RMC. La minute de Fred également. Et puis à 22h, c'est l'after. Hein. Gilbert Bribois sera là avec Walid Acharchour et Florent Gautreau. Et il y aura le départ sur RMC du Grand Prix de Formule 1 de Miami avec Jean-Luc Roy. Et il y a de la guest sur place. Zinedine Zidane sur place.
Ça va, ouais, ça, ambassadeur Bido. Alpine.
Ouais. Et ambassadeur, pas mal de si choses. Et Chiran aussi, pas mal. J'aime
bien. Après avoir été à Ipswich hier, parce que lui aussi c'est un grand sponsor d'Ipswich.
Ah oui.
Et après, d'Ipswich à Miami en jet privé, tranquille.
Voilà. Taxe carbone, nickel. Allez, à tout de suite sur RMC Génération After Drôle de Dame continue jusqu'à 22h.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Thibaut Giangrande.
Génération After spécial drôle de dame en ce dimanche soir. Paulo Breitner, Fred Hermel, Julien Laurence et Johan Crochet sont là jusqu'à 22h ce soir. Ensuite, ce sera l'after Gilbert Bribois, Florent Gautreau, Walid Acharchour dans un quart d'heure. Vous avez la parole, le 32-16, vos questions aux drôles de dames, la minute de Fred à suivre, mais d'abord, alors que c'est la mi-temps entre l'AS Rome et la Juve, toujours un but partout, le point sur la course au maintien en Serie A avec toi, Johan. Et là, ça va être beaucoup plus serré que dans le haut du tableau.
Ouais.
6 équipes, voire 7 sont concernées.
Ouais, 6 clubs en 4 points. Alors on peut estimer après cette journée que Lecce a un petit matelas quand même d'avance et que j'ai tendance à les mettre un peu en dehors de cette lutte-là. Mais on a surtout Sassuolo, Udinese, je pars du bas, hein, Sassuolo, Udinese, Empoli, Hellas Vérone, Frosinone et Cagliari. Ce qui est intéressant, c'est de voir que à la 37e et 38e journée, il y a Sassuolo, Cagliari, Udinese, Empoli, Frosinone et Udinese. Donc que des rencontres confrontation directe, voilà, merci, entre les clubs qui luttent pour le maintien. Donc ça va être assez assez intéressant et très tendu, surtout je pense ces matchs là à venir. Alors je vais m'arrêter juste très rapidement sur deux clubs pour vous donner deux situations différentes. On a parlé de Sassuolo la semaine dernière dans la minute. Donc cette semaine, on va parler rapidement de Cagliari et de l'Udinese, et parce que Cagliari, ce qui est intéressant de voir, c'est comment les Italiens qui sont pas concernés directement par ces clubs-là, donc pas supporters de ces clubs-là, évoquent cette lutte pour le maintien. Et ils expliquent notamment que y en a qui les aimeraient voir descendre et d'autres qui n'ont pas envie de voir descendre. Et il y a une très forte différence, pardon, entre Cagliari et l'Udinese. Et Cagliari, en fait, c'est pas tant pour Cagliari en le club, parce que c'est un club très identitaire, c'est des Sardes, et parfois il y a des vrais affrontements avec des Italiens du continent, du nord de l'Italie, entre guillemets, et Cagliari, il y a beaucoup d'Italiens qui veulent voir le club se maintenir pour une personne, Claudio Ranieri, qui est l'entraîneur de Cagliari, parce que Claudio Ranieri a une très belle image en Italie, parce que c'est quelqu'un déjà de foncièrement sympa, qui a jamais été un révolutionnaire dans le foot, c'est pas quelqu'un qui fait pratiquer un football dantesque à ses équipes, enlevé, etc., mais c'est quelqu'un qui a une bonhomie certaine, qui est toujours agréable, courtois, bien éduqué, etc. Et c'est quelqu'un qui a réussi à développer une très belle image, à l'instar d'un Carlo Ancelotti, pour d'autres raisons. Lui gagne en plus, Ancelotti, beaucoup. Mais c'est deux des entraîneurs qui sont préférés des Italiens. Et l'Udinese, à l'inverse...
Il y a pas Rudy Garcia dans le...
Rudy Garcia, il y a encore des gens à Rome qui l'aiment beaucoup. À Naples, très peu. Et l'autre club, c'est l'Udinese. Et l'Udinese, c'est un peu l'inverse. C'est qu'il y a beaucoup d'Italiens qui veulent voir ce club descendre. Pour, mon cher Julien, les Pozzo, la famille Pozzo, qui possède ce club-là, qui a fait un des premiers à faire de la multipropriété en Europe, avec à l'époque Grenade et puis Watford, évidemment. Parce que c'est un certain modèle de développement à travers de beaucoup de trading et du trading pas toujours très sain, où on fait comprendre aux joueurs, allez, viens au dîner, t'inquiète, dans deux ans, on écrit ça sur le contrat, tu pourras aller à Watford en première ligue, s'ils sont en première ligue, ou sinon en championship, s'ils sont en championship, et avec la vue sur la première ligue, évidemment. Donc, ils ont fait passer l'Udinese et d'un club qui était très intéressant à un club de passage. Et ça, il y a beaucoup de gens en Italie qui ont une vraie culture foot, qui ont du mal à accepter ça. Et puis aussi pour un jeu catastrophique. Ça fait plusieurs saisons que c'est l'une des équipes les plus
pénibles,
merci, ouais, à avoir joué avec du jeu comme on le faisait dans les années 80 en Angleterre. On balance tout sur l'attaquant qui est plutôt bon de la tête et on attaque les deuxièmes ballons. Beaucoup de dynamisme, beaucoup de course, mais quand le ballon est dans les pieds, c'est pas forcément génial. Donc dans cette lutte pour le maintien, tout le monde en Italie prend un peu son petit club qu'il a envie de voir maintenir et le club qu'il a envie de voir descendre.
Et ça c'est partout pareil. En Espagne, on a aussi des goûts comme ça pour des clubs, notamment. Puis il y a ceux aussi qu'on veut voir monter de deuxième à première division, quoi. Il y a des historiques comme ça.
Bah en France, je pense qu'on aimerait tous voir remonter Bordeaux, Saint-Etienne. Il y a Auxerre qui remonte.
Ah, Auxerre, c'est déjà fait, pardon. On a déjà pris une place.
Non mais sérieusement, franchement, Bordeaux, ça, bah, surtout Saint-Etienne, enfin, ne pas avoir Saint-Etienne en Ligue 1. Je veux dire, c'est un problème.
Et d'ailleurs, Udinese.
Mais on est moins sur les descentes. Tu vois, par exemple, là, sur tu regardes la descente en France, t'as Lorient, Metz, Clermont, Le Havre, Nantes. Bon, là, il n'y a pas de front commun pour vouloir descendre ou sauver un club non plus, quoi.
Donc, demain soir, horaire normalement des drôles de dames, il y a Udinese et Napoli. L'Udinese qui a mis sur le banc il y a une dizaine de jours Fabio Cannavaro, pur napolitain.
Oh!
Supporter du Napoli, oh, avec son frère, notamment Paolo Cannavaro. Des vrais napolitains, donc, match un peu crève-cœur, besoin de points pour l'Udinese et peut priver totalement le Napoli de Coupe d'Europe la saison prochaine.
Fabio Cannavaro, l'un des mecs les plus sympas que j'ai rencontré dans le foot. Type fabuleux.
Ouais, en 2006, il a été un peu relou quand même, mais c'est normal.
Bah, alors après, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec lui dans le. Enfin, Ballon d'Or quand même, hein. Eh oui. Il avait Ballon d'Or parce qu'il avait porté la coupe. C'était l'un des moins.
C'était peut-être pas l'Italien. Non. C'était peut-être pas cet Italien là qu'il fallait donner.
Ouais, mais c'est celui qui a soulevé le trophée et ça compte pour l'image. Et je lui avais dit quand même votre jeu à la con et tout ça. Là, puis il me regarde et il me dit tu veux voir les étoiles qu'il y a sur mon maillot en jouant comme ça.
Insupportable.
Non mais c'est. Comment tu réponds à ça?
Il y a, Il y a rapidement, il y a Nico dans le chat qui demande si l'Udinese descend, est-ce que Thauvin peut rester en série B ou...
Oui, non, je vois pas. Déjà rien que pour une question contractuelle, ouais, ça me semble extrêmement faisable.
La course au titre est d'ailleurs 32-16. Hein, si vous voulez poser vos questions dans quelques minutes, les drôles de dames sont à vous. Julien, la course au titre en Première Ligue, Arsenal a gagné, City a gagné, un week-end pour rien, quoi.
Ouais, un week-end sympa quand même. Un week-end sympa, mais effectivement un week-end où on n'a pas eu de changement. On est en tête de la Première Ligue, on reste avec un point d'avance pour Arsenal, avec City qui reste derrière, mais avec un match de plus à jouer contre Tottenham dans dix jours de ça, avec une différence de but toujours légèrement plus 6, donc supérieur pour Arsenal qui a marqué 3 buts contre Bournemouth à domicile en portant 3-0 face à cette équipe de City qui a démoli Nottingham Forest,
Wolverhampton
à domicile avec un quadruplé, merci Yo, avec un quadruplé de Erling Haaland. Vous savez, le joueur qui avait le niveau d'un joueur de 4ème division, comme nous l'avait appelé Roy Keane il y a quelques semaines de ça, et qui est donc revenu à un très très bon niveau, même s'il y a quand même 2 pénaltys sur les 4 buts. Donc voilà, il n'y a aucun changement finalement, sauf que, comme on le dit maintenant depuis plusieurs semaines, ça reste entre les mains de City et que City pourrait terminer champion avec un point d'avance s'il remporte tous leurs matchs, les 3 qui restent maintenant, à Fulham, à Tottenham et à domicile contre West Ham. Quand pour Arsenal il reste que 2 matchs à l'extérieur à Manchester United et ensuite pour finir à domicile contre Everton. Donc on verra si City va craquer un moment, on verra si Arsenal va craquer. Alors les 2 gros matchs semblent être le week-end prochain, donc dimanche prochain à Old Trafford pour Arsenal contre United, et puis à Tottenham pour City, même si cette équipe de Tottenham, on l'a dit, 4 défaites de suite en perdition totale. Donc j'ai du mal à voir où City pourrait perdre des points, mais tant que les matchs n'ont pas été gagnés au coup de sifflet final de l'arbitre, il y a toujours un risque, forcément il y a toujours un espoir pour Arsenal et pour City à gérer cette pression aussi.
Est-ce qu'il a retenu plus ton attention ce week-end, Julien, c'est ce titre très honorifique remporté par Phil Foden, joueur de l'année élu par les journalistes. La saison n'est pas finie.
Ouais, c'est ça. Alors, c'est ça qui me gêne un tout petit peu, parce que sur le fond, qu'il soit nommé meilleur joueur, il n'y a pas vraiment de débat finalement. C'est la meilleure saison de sa carrière. Il a 23 ans, c'est 24 buts et 11 passes d'ess en 49 matchs toutes compétitions confondues. C'est du très très haut niveau. C'est assez incroyable d'ailleurs les paliers qu'il a franchis cette saison, l'importance qu'il a dans cette équipe de City, mais aussi globalement dans son jeu. Donc sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord. Alors il y a deux titres de joueur de la saison, un par les joueurs eux-mêmes, donc ce sera plus tard, et celui par les supporters, par les journalistes, pardon, comme tu l'as dit, qui est très important, ici la presse, les médias sont très importants. C'est un titre que les joueurs aiment aussi remporter. Donc c'est très important. Ce qui me gêne un tout petit peu, c'est qu'on l'a dit, il reste 3 matchs, 2 matchs, ça dépend pour qui, et que
qu'est-ce qui se passe
si Arsenal est champion. Si Arsenal est champion et que Bukayo Saka marque 3-2 hat-trick dans les 2 derniers matchs, 2 triplés pardon Polo dans les 2 prochains matchs, voilà, ou si Marcelo de Carles le fait, ou Declan Rice,
est-ce que t'enlèves quand même imaginons Foden rate ses 3 derniers matchs, tu restes quand même sur une impression sur cette saison où il a été stratosphérique quand même, peut-être au-dessus de Saka ou Odegaard, non?
Ben oui, peut-être, sauf que si Odegaard amène le titre à Arsenal pour la première fois depuis 20 ans, alors que Foden, ça fait quand même, ce serait le 4ème de suite, dans une équipe qui est archi-dominatrice depuis l'arrivée de Guardiola maintenant. Je sais pas, pour moi, Odegaard qui amène Arsenal au titre avec la saison qu'il fait en plus, ça voudrait aussi dire beaucoup. Donc voilà, mais encore une fois, sur le fond, il y a pas de débat sur le fait que Foden mérite de remporter aussi ce trophée-là, parce qu'il a été extraordinaire, comme tu l'as dit. Mais voilà, pour moi, l'équipe qui est championne, souvent le titre de meilleur joueur, ou en tout cas le meilleur joueur, doit appartenir à cette équipe-là. C'est pour ça que j'aurais attendu, personnellement, de savoir qui est champion, parce que je pense que ça aurait aussi une influence sur le vote des journalistes, le choix des journalistes.
C'est-à-dire pour toi, le ballon d'or, forcément que ce soit le joueur qui a gagné le plus de trophées dans l'année, quoi, c'est ça?
Non, mais ça, c'est différent, parce que là, tu parles de. Là, c'est le choix du meilleur joueur anglais. Pour le ballon d'or, c'est tous les championnats réunis, c'est aussi la Ligue des Champions, c'est la Coupe du Monde quand il y en a une, c'est l'Euro, il y a beaucoup plus de choses qui entrent en jeu. Qu'une saison domestique qu'on peut l'avoir dans chacun de nos championnats.
T'as voté pour lui ?
Je vote pas, moi. Ah. Je suis pas.
Ah bon ? Ouais. Une star comme toi, non, ne vote c'est... pas là-bas. Quoi.
Je vote pas. Je vote un moment, mais je vote plus. Okay.
21h43, les drôles de dames dans un instant, le 32-16, vous avez la parole. Vos questions, Apollo, à Fredo, à Johan et à Julien, mais d'abord la dernière minute de la soirée. La minute de Fred.
Una noche guaraní de guitarras y de canto. Tú no me quisiste a mí y yo te quería tanto.
Julio, vous n'avez pas mis du Julio Iglesias cette année?
Non.
Je rappelle, ancien gardien du Real Madrid.
Mais tu vois, on en a parlé un peu dans l'émission. Je préférais les sons de son fils.
Voilà, voilà.
Ma mère m'a fatigué avec cette chanson.
Elle est magnifique. Alors, Julio Iglesias, qui a été gardien des jeunes du Real Madrid et qui s'est mis à la chanson, ce qui a eu un grave accident de voiture. Il est resté sur un lit pendant un an. Et donc, il a commencé à chanter sur son lit d'hôpital et il a réussi pas mal la carrière au niveau de la chanson. Blanca Paloma, la colombe blanche. Pourquoi j'ai choisi cette chanson? Parce que le football espagnol, plutôt la ministre Pilar Alegría, qui est la ministre de l'éducation et des sports en Espagne, et le conseil des ministres espagnols ont choisi une colombe blanche pour essayer de pacifier un petit peu la fédération et toute l'image que donne la fédération espagnole. Vicente del Bosque, voilà ce qu'on a présenté comme un homme aimé, respecté. Vicente del Bosque, qui est devenu, parce que je le dis parce que c'est quand même spécial, le président de la commission de supervision, de normalisation et de représentation du football espagnol, de la fédération espagnole, parce que je vous rappelle que l'ancien président Rubiales est poursuivi pour l'histoire du baiser forcé à Gini Hermoso, mais aussi pour plein d'histoires de malversations, que Pedro Rocha, le président actuel qui est en intérim jusqu'aux prochaines élections, lui aussi est au cœur d'une enquête pour ces mêmes histoires pas très claires de prise illégale d'intérêt et de corruption. Et donc il fallait quelqu'un pour représenter un petit peu le foot espagnol, et quelqu'un par exemple notamment pour aller à la finale de la Ligue des Champions, pour aller à l'Euro, pour aller aux Jeux Olympiques. Et ben le ministère et le gouvernement a choisi quelqu'un qui fait à peu près l'unanimité en Espagne, ancien entraîneur du Real, mais surtout sélectionneur de l'Espagne, champion du monde en 2010, Vicente del Bosque. Donc c'est plutôt bien de ne pas avoir un mec.
Ça va pas plaire à l'UEFA, ça, par contre.
Alors, tu as raison de lancer ça. L'UEFA regarde ça de très très près. Et il y a toujours un risque.
Ils n'aiment pas l'ingérence des ministères.
Et que les clubs espagnols puissent être en dehors de l'UEFA, enfin c'est l'UEFA, la FIFA, c'est tout ça, c'est tous les organismes internationaux qui n'aiment pas, c'est surtout la FIFA d'ailleurs qui regarde ça, les ingérences, mais
oui,
c'est pour FIFA, ça que le gouvernement fait très très attention.
Johan.
Juste 20 secondes, en Italie, on parle d'une intervention du gouvernement pour créer une sorte de commission aussi pour valider les licences des clubs au niveau économique pour s'inscrire à la Serie A, et là encore, l'UEFA et la FIFA... Ouais. Vont regarder ça de très près si ça arrive.
C'est de l'ingérence.
Les clubs sont totalement contre cette commission ou ce département que veulent mettre en place le gouvernement. Et ça pourrait créer des problèmes aussi.
Ça va repartir entre la Roma et la Juve, le match du soir en Italie. Un but partout, 21h46, le dernier quart d'heure de ce Génération After spécial Drôle de Dame pour conclure votre week-end. Le 32-16 pour le conclure de la meilleure des manières. Vous venez poser vos questions au Drôle de Dame tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Thibaut Giangrande.
Et oui, 21h49, dimanche soir, et les drôles de dames sont bel et bien là. Julien Laurence, Paulo Breitner, Johan Crochet, Fred Hermel, jusqu'à 22h, pas de Ligue 1 ce soir. Hommage aux victimes de Furiani. L'affiche entre Lille et Lyon aura lieu demain soir sur RMC. Les drôles de dames sont donc là ce soir. Si vous avez raté le début d'émission, pas de souci, hein, ce sera dispo en podcast dans quelques minutes. À 22h, l'after autour de Gilbert Bribois, Florent Gautreau et Walid Acherchour avec vous tous au 32-16. Il y aura également le départ du Grand Prix de Miami à suivre à partir de 22h. Avec Jean-Luc Roy. Tout de suite, le 32-16, vous nous appelez et vous posez vos questions aux drôles de dames sur le Direct Studio également et toujours sur YouTube où je lis, je vois vos messages. Guillaume est là au 32-16. Salut Guillaume, bienvenue sur RMC.
Bonsoir tout le monde.
Ciao Guillaume.
Comment ça va Guillaume ?
Ciao Guillaume.
Bah, ça va super avec vous ?
Bah, ça va en pleine forme. T'as une question pour qui ce soir ?
Ah bah pour Julien.
Ok.
Ah, bien Guillaume.
Bonsoir. Avant de commencer, je me permets vite fait, il y a mes filles qui doivent certainement écouter, et je leur ai dit que j'allais parler à Julien, donc elle m'a dit « Ah bon, tu vas parler à Julien comme si t'étais déjà de la famille ?» Donc voilà, elles ont 6 ans, 7 ans, donc n'hésite pas à leur faire un petit coucou en passant.
Ah, c'est bien les filles, bravo, c'est la famille.
Elles s'appellent comment ? Vas-y, donne les prénoms.
Louise et Lucie.
Eh ben voilà, gros bisous à Louise et Lucie.
Très joli prénom.
Et puis elles sont contentes que je parle de Chelsea, puisque bah maintenant on en parle de moins en moins. Donc on est là pour continuer à en parler et ça tournait notamment autour de Pochettino, puisque au vu de la saison avec voilà le remaniement des équipes plus le nombre de blessés où j'ai jamais vu ça, ça valait le coup de virer le staff médical vu le résultat. Du coup qu'est-ce qu'on doit penser de l'entraîneur? Est-ce que il a vraiment besoin de temps? Est-ce que c'est vraiment l'homme de la situation ou est-ce que bah finalement il fait pas le taf avec tous les éléments qu'on lui a donné en main et qu'on pourrait en attendre plus.
Ouais, c'est une bonne question, Guillaume. C'est un bon débat. On n'a pas trop le temps, malheureusement. J'ai pensé à le faire ce soir, mais c'est pareil. Il fallait un petit peu plus de temps aussi. C'était très bien aujourd'hui. J'ai trouvé. Alors, West Ham, vous savez ce que j'en pense.
Hein, 5-0. Fox,
etc. Le dinosaure, ouais. 5-0. Même si West Ham frappe trois fois sur la barre. Mais ça aurait pu être même 6 ou 7, hein. Tellement Chelsea a été bon et dominateur, etc., etc. Donc, il y a des bonnes choses cette saison, Guillaume. Sincèrement. Pochettino, malgré toutes les blessures, malgré la jeunesse de l'effectif, malgré le fait que Nico Jackson c'est pas un numéro 9 et qu'il a joué en numéro 9 toute la saison, même si là c'est un petit peu mieux encore dans l'efficacité, on l'a vu aujourd'hui. Il y a des choses positives. Il y a aussi la fessée contre Arsenal qui, je pense, a fait beaucoup de mal à un moment où ça jouait un petit peu mieux, même s'il y a eu la défaite en FA Cup en demi-finale quelques jours avant. Même lui s'interroge sur son propre avenir. Et quand un entraîneur publiquement s'interroge sur son propre avenir en disant, je sais même pas si je serai là, aller demander aux propriétaires, aller demander plus haut ce qu'ils veulent faire de moi parce que j'ai encore un an de contrat, en général, c'est pas bon. On sait par exemple que Todd Boehly, l'un des deux propriétaires, en a eu un peu marre du foot. Il avait acheté le club, il pensait que ce serait bien, puis finalement, ça l'a saoulé très vite. Et que le deuxième grand propriétaire avec Bali est pas trop fan de Pochettino. C'était pas son choix, c'était le choix de Boehly. Donc, est-ce que ça veut dire que Poch est sous pression? Sûrement. Est-ce qu'il va se faire virer? Je sais pas. Il faudrait encore recommencer à zéro. Encore une fois, ils peuvent encore se qualifier peut-être pour la Conference League, voire même l'Europa League. Donc, faut voir. Je sais pas. C'est une saison, juste pour finir, parce que je sais qu'il y a d'autres questions pour les autres. C'est tellement compliqué finalement. Enfin, pas compliqué, mais assez fascinant à essayer d'analyser, de déchiffrer, parce qu'il y a eu vraiment des bonnes choses et d'autres choses qui ont été catastrophiques. On en reparlera à la fin de la saison, je te promets. Mais là, c'est compliqué de le faire en si peu de temps.
Ouais, Guillaume. Merci d'avoir été là. Bah, à bientôt. Bonne soirée. Hein.
Et également à vous.
Salut, Guillaume. Bye bye. Le 32-16, où nous appelle également Anzo. Salut, Anzo.
Bonsoir tout le monde.
Oh, un classique.
Ouais, Anzo. Ah, oui. Anzo, j'imagine que tu auras une question pour Paulo Breitner.
Exactement.
Non, question italienne, non, évidemment.
Oui.
Est-ce que Anzo a une question sur le Napoli?
Je crois.
Vous connaissez ou pas?
Oui,
bah,
oui.
Il appelle toutes les semaines. Et depuis 15 ans.
Je devrais écouter un peu plus cette émission.
Non, effectivement.
C'est bon,
ouais, je voulais interpeller Johan parce que ben ce week-end c'est le week-end nostalgie pour les supporters napolitains. Notamment hier, je suis allé voir le film à Naples sur le Scudetto Sarro Conte, orchestré par notre grand et cher président Aurelio De Laurentiis, qui pour une fois, je crois, il a fait quelque chose de pas trop mal en termes cinématographiques, on peut dire. Mais ça interroge sur plein de choses. En fait, moi, entre guillemets, ça m'a permis de faire la paix entre guillemets avec les joueurs. C'est quand on voit la saison qu'ils ont fait. En mode, les gars, ce que vous avez fait, en fait, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement mythique, mystique, parce qu'on voit toute l'influence de Maradona aussi dans l'approche de Spalletti, etc. Bah, en fait, c'est un peu, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui nous attend, en fait? Qu'est-ce qu'on doit attendre du Napoli à la fin de cette saison? Parce que Johan, la saison dernière, m'avait dit, dès le soir du Scudetto, bon, bah, accroche-toi, la saison prochaine, ça va être compliqué. Maintenant, que j'ai bien galéré. Ouais, bon, pour le coup, il avait plus que bien vu. Et vu qu'il a bien vu, maintenant, je m'attends à quoi pour la saison prochaine, quoi.
Okay. Vas-y. Regarde dans ta boule de cristal.
Ouais, c'est un peu ça. Non, mais Anzo, en fait, ce film-là, et de manière générale, c'est important parce que, au-delà même des souvenirs, au-delà même de, ça permet d'ancrer les choses dans le temps. Et ne pas simplement rester sur les souvenirs qu'on a vécu ce jour-là, ce soir-là, ces semaines-là de belles victoires. Mais aujourd'hui, dans 10 ans, tu pourras regarder ce film avec cette nostalgie et te remémorer tous les instants que tu as vécu aux côtés du Napoli cette saison-là. Maintenant, pour l'avenir, bah, le problème du Napoli, c'est que si ton cycle ne dure que 2 ans à chaque fois, bah, tous les 2 ans, ça veut dire que tu redémarres pas d'une feuille blanche, mais quelque part pas loin non plus. Donc ça dépend quel type de coach tu prends. On a fait le grand écart entre Spalletti et les 3 entraîneurs cette saison. Tu vas repartir encore sur autre chose avec des nouveaux joueurs. Tu vas vendre les meilleurs joueurs. Tu vas essayer d'en garder au moins un comme Gvara. Mais il y a beaucoup trop de changements et d'instabilité. Et on le sait, Naples, comme Rome, c'est l'instabilité émotionnelle, l'instabilité des finances parfois, l'instabilité des propriétaires, l'instabilité de tout, des entraîneurs, des joueurs. Donc c'est très difficile de s'inscrire dans la durée. Ce qui est certain, mon cher Anzo, c'est que t'aurais signé, et j'en suis à peu près persuadé, pour avoir une saison de Scudetto et des souvenirs pour la vie, et une saison totalement galère derrière. Plutôt voilà. que deux saisons en étant deuxième et en te qualifiant à chaque fois pour la Ligue des Champions.
C'est beau ce que tu viens de dire, Yoann. Merci Enzo d'avoir été là. À la semaine prochaine.
Merci à vous.
Salut Enzo.
Ciao Enzo.
À très vite. Bye bye. Plus beaucoup le temps, juste un message sur le direct studio de Mika, parce que c'est un peu la question qu'on se pose tous. Polo, est-ce que tu penses que le Bayer Leverkusen, comme moi, va finir invaincu? 5-1, ils ont mis à Francfort aujourd'hui.
C'est fou. Parce que c'est
avec une équipe
fois,
B.
Avec une équipe B, ouais, mais en plus, dans le turnover habituel. Mais c'est fou parce que c'est un match à enjeu, surtout pour Francfort, qui n'est pas encore qualifié pour la prochaine Europa League, voire plus en fonction des résultats en Ligue des Champions. Donc tu te dis, si Leverkusen laisse tomber cette rencontre, on s'en fiche complètement. Ils en mettent 5 à Leverkusen, à Francfort. Bon, ils sont chanceux en première mi-temps. Xhaka marque encore une fois un superbe but, mais il rentre au vestiaire en menant 2-1. Je pense que, en fait, la priorité des priorités, c'est le triplé quand même. Hein. Ensuite, s'ils finissent invaincus, pourquoi pas. Mais ce qui est sûr, et même si Alonso était suspendu pour cette rencontre, hein, parce qu'on dit toujours qu'il est très sympathique, mais il se prend un paquet de cartons jaunes, il est dans une logique de turnover qui fait que toute l'équipe est motivée pour jouer. Et même Boniface, qui est quand même le grand absent des dernières journées, marque sur penalty. Donc tout le monde a sa part du gâteau, et c'est une gestion qui est toujours intéressante. Donc pour répondre à ta question, je pense en effet qu'il n'y a pas de raison qu'il ne finisse pas invaincu, mais je vais dire quelque chose sans présager de l'avenir. Attention au retour de bâton, quoi. Parce que ce n'est pas une grande équipe, ce sont des grandes performances, c'est très différent pour moi.
Vas-y, voilà, conclue, Polo.
C'est un momentum extraordinaire pour les Leverkusen, évidemment, qui aurait déjà dû gagner de la Bundesliga bien avant avec des meilleures équipes. Mais je me demande comment ça va se passer l'année prochaine.
Voilà. Et comme l'écrit Corbier dans le chat, c'est peut-être pas le vrai, Leverkusen connaîtra sa première défaite contre l'OM. Ils sont nombreux à le penser. Il rajoute, je déconne.
C'est possible.
Merci les gars, ça a été un plaisir de conclure ce week-end avec vous. Polo Breitner, Frédéric Rocher, Fred Hermel, Julien Laurence. Merci. C'est toujours gentil de dire ça devant le boss. Gilbert Bribois arrive dans un instant. On vous retrouve tout au long de cette semaine. Les gars, c'est le début d'une semaine de folie sur RMC avec la Ligue des Champions, la Ligue 1 demain soir, ce Lille-Lyon dans un instant l'after. Gilbert Bribois, Walid Acharchour et Florent Gautreau, plus le départ du Grand Prix de Miami. Vous êtes sur RMC, le foot continue jusqu'à minuit.